Ce soir, on voulait vous parler un petit peu du logiciel libre et des enjeux qu'il y a autour du logiciel libre, un peu de retour, notamment tout ce qui est les enjeux, la philosophie qu'il y a derrière le logiciel libre, les enjeux philosophiques, éthiques, sociaux qu'il peut y avoir, et voilà, ce sera déjà pas mal. Le principe, c'est que on a en gros, on voulait faire une présentation d'environ une petite heure, et puis garder très petite heure, et puis on laissera après place à vos questions, si vous voulez. On va peut-être commencer par faire connaissance, je t'introduis.
Non. Je te permets.
Non, tu me permets. Donc, parce que oui, tout à fait. Je vais essayer de pas raconter de bêtises. Je précise parce que en fait, il y a que mon nom marqué à l'extérieur, mais Frédéric a eu la gentillesse de se déplacer aujourd'hui. Donc, Frédéric Couchet, le délégué général de l'April, qui est l'association sans doute aujourd'hui la plus à la pointe en termes de promotion et de défense du logiciel libre en France. Et donc, voilà, c'est quelqu'un à qui on doit beaucoup dans le milieu du logiciel libre, et c'est pour ça que je suis très content qu'il soit là ce soir. Si. Voilà. Et quant à moi, je m'introduis moi-même, ce sera plus simple. Donc, je suis Pierre-Yves Gosset, je suis délégué général de Framasoft. Donc, Framasoft est une association, mais c'est surtout une communauté de sites Internet. C'est-à-dire qu'on est à la fois un annuaire de logiciels libres, on édite un certain nombre de choses à côté, comme des livres ou des packages logiciels. Et je suis aussi membre de l'ALDIL, qui est l'association lyonnaise des utilisateurs de logiciels libres. Donc voilà, on pourra parler du milieu associatif, si vous voulez, tout à l'heure. Je ne sais pas, est-ce que tu veux commencer par introduire première question peut-être qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que vous déjà, vous savez ce qu'est un logiciel libre ? Combien parmi vous le savent ? Allez. Ah, ça fait toujours plaisir à voir. Par contre, il y en a qui n'ont pas levé la main. On va peut-être commencer par introduire qu'est-ce qu'un logiciel libre ? Et là, je te donne la parole. C'est quoi donc un logiciel libre ?
Il ne faut pas parler trop. Ouais. Là, il y a un petit retour.
Je vais supposer quand même qu'ici, il y a principalement des gens du grand public qui ne savent pas ce que c'est que le travail d'un informaticien. Donc, je vais d'abord vous expliquer ce qu'est le travail d'un informaticien pour que vous compreniez ce que c'est que le logiciel libre et sa différence avec le logiciel propriétaire. La définition est relativement simple, c'est après qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent par rapport à des modèles économiques, mais la définition est relativement très simple. Un informaticien, quand il travaille sur un programme, il ne travaille pas du tout sur la version que vous connaissez, que la version que l'ordinateur fait tourner, qui s'exécute sur la machine, qu'on appelle le code exécutable. L'informaticien, lui, il écrit des programmes dans ce qu'on appelle des langages de programmation qui, après un processus technique, permet d'obtenir un programme exécutable compréhensible par la machine. Alors, si on prend une comparaison, il suffit simplement de penser aux recettes de cuisine et aux plats cuisinés. Les personnes qui font de la cuisine, les pâtissiers, les chefs, partent d'une recette de cuisine. Après un certain processus de cuisson et autres, on obtient un plat cuisiné. Et on voit tout de suite que si on part du plat cuisiné, par exemple, imaginez que vous êtes chez un ami qui vous a fait un plat, il ne vous dit pas ce que c'est, et il vous demande de deviner. À partir des papilles gustatives, à partir de votre goût, vous allez peut-être deviner ce qu'il y a, un certain nombre d'ingrédients. Vous n'allez pas forcément deviner tous les ingrédients. Et si vous deviez refaire cette recette plus tard parce qu'elle vous a plu, tout simplement, vous n'allez pas lui demander une copie, un bout du plat. Ce que vous allez lui demander, évidemment, c'est la recette de cuisine, qui vous livre la recette de cuisine. Comme ça, quand vous rentrez chez vous, vous avez la recette de cuisine, vous pouvez la refaire entièrement et vous aurez le même plat. De même, vous pourrez modifier cette recette juste pour l'adapter à votre propre goût. Par exemple, rajouter du sel ou rajouter un ingrédient et faire évoluer cette recette. Dans le monde du logiciel, c'est pareil. Quand on veut faire évoluer des logiciels, on part toujours, en tout cas la forme préférée pour le faire évoluer, c'est toujours le code source du logiciel, ce qu'on appelle la recette de cuisine. Code source, recette de cuisine, code exécutable, c'est le plat cuisiné. Et ce qui va différencier en fait le logiciel libre du logiciel propriétaire, c'est en fait qui a le droit d'accès à ce code source et quelles sont les libertés associées à ce code source. Et dans le logiciel libre, on considère qu'il y a quatre libertés fondamentales, dont on considère que ce sont les libertés fondamentales pour les utilisateurs d'informatique. La première de ces libertés, qui n'est elle pas liée au code source, mais liée simplement au programme ordinateur, c'est, quelle que soit la façon dont vous êtes procuré le programme, que vous l'ayez acheté dans un magasin, que vous l'ayez téléchargé sur Internet, qu'un copain vous en ait fait une copie, vous avez toute liberté d'usage. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité par une licence d'utilisation qui vous dit, par exemple, que vous avez acheté cet ce logiciel pour l'installer uniquement sur un poste. Non, si vous avez deux postes, vous pouvez l'installer sur deux postes. Si vous êtes une entreprise, vous êtes procuré du logiciel libre, par exemple sous forme d'un CD, vous pouvez installer tous les postes de votre entreprise, tous les postes de travail, avec ce seul CD. Vous n'êtes pas obligé de racheter à chaque fois un CD par poste de travail. Ça, c'est la liberté d'usage du logiciel libre qui est liée, quelque part, à la version exécutable du programme, celle qui tourne sur la machine. La deuxième liberté, c'est qu'on peut étudier le fonctionnement du programme. Le logiciel libre est à la fois livré sous sa forme exécutable et avec sa recette de cuisine, son code source. Alors, ces libertés d'étudier le fonctionnement, peut-être qu'on peut imaginer que ça n'a pas d'intérêt direct pour l'utilisateur, mais ça a quand même des intérêts pour ceux qui vont développer des logiciels. Alors, d'abord, c'est des intérêts en termes pédagogiques, ça a des intérêts en termes de sécurité. Il est toujours plus efficace et plus performant de voir ce que fait le code source, comment est écrit le code source, plutôt que de se baser sur la version exécutable pour comprendre ce que fait exactement le programme. Plutôt finalement que uniquement avoir finalement le code binaire, partir du plat cuisiné, là on parle de la code source. Donc ça c'est la deuxième liberté, c'est la liberté d'étude. Évidemment si on avait que la liberté d'étude, ça serait un peu limitatif. On a un programme, un peu comme une recette de cuisine, on a vu son fonctionnement, on sait qu'on peut refaire le plat, par contre on voudrait rajouter une fonctionnalité. Ou on voudrait corriger tout simplement un bug. Il faut savoir que dans l'informatique, il y a en gros deux grandes raisons pour lesquelles il faut faire évoluer des programmes. C'est un, rajouter des fonctionnalités. Parce qu'à un instant T, un logiciel, quel qu'il soit, répond à un besoin fonctionnel précis. On prend les traitements de texte d'il y a 10 ans, par exemple, les traitements de texte d'aujourd'hui. Bah, dans les traitements de texte d'il y a 10 ans, vous ne pouviez pas exporter du texte en format HTML. Vous aviez des corrections orthographiques, mais pas forcément de grande qualité. Donc il y a eu des évolutions qui ont été faites, des fonctionnalités qui ont été rajoutées, et c'est normal, parce que les besoins évoluent. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut faire évoluer le logiciel, c'est pour rajouter des fonctionnalités. De la même façon que quand on modifie des recettes de cuisine, bah, c'est pour rajouter une fonctionnalité qui va l'adapter à un besoin, à un plaisir particulier. Et la deuxième raison, c'est que dans un programme informatique, il y a toujours des erreurs. Et c'est normal, parce qu'un programme informatique, c'est écrit par des êtres humains, qui sont donc faillibles, qui écrivent des millions de lignes de code. Donc il y a forcément des erreurs de programmation, ce qu'on appelle des bugs. Le programme ne se comporte pas comme il était prévu. L'écran plante, il y a une erreur de sauvegarde sur disque, peu importe, il y a un bug. Donc pour pouvoir corriger ces bugs, il faut pouvoir modifier le logiciel. Et c'est pour ça qu'intervient la troisième liberté du logiciel libre. Une fois qu'on a étudié son fonctionnement, qu'on a vu comment il interagit, ce qu'il fait, ben, si éventuellement il y a des bugs, on peut pouvoir le modifier, corriger ces bugs, ou rajouter des fonctionnalités. Et pour ça, c'est la liberté de modification du code source. Et ces trois premières libertés, utilisation, étude du code source, donc de son fonctionnement, modification pour rajouter des fonctionnalités ou corriger des bugs, on est toujours dans le domaine de la vie privée quelque part. Ça vous concerne vous en tant qu'utilisateur. Vous avez téléchargé un logiciel, vous avez récupéré un logiciel, vous l'utilisez librement. Vous avez quelques connaissances informatiques, vous pouvez étudier son fonctionnement et rajouter éventuellement une fonctionnalité. Ce qui va permettre la force du logiciel libre et le modèle de création dit communautaire ou collaboratif, c'est la liberté de distribuer le logiciel libre. À la fois sa version originale binaire, compréhensible par l'ordinateur, donc typiquement vous êtes chez un ami, il vous montre un superbe logiciel, de, par exemple de dessin, qui s'appelle The Gimp, ou qui vous montre un outil de bureautique qui s'appelle OpenOffice, vous trouvez ça bien, ben votre ami a légalement le droit de vous en faire une copie pour que vous repartiez chez vous et que vous l'installiez chez vous. Ce que vous faisiez globalement, enfin ce que beaucoup de monde fait globalement depuis quelques années avec des outils de propriétaires, mais dans ce cas-là c'est complètement illégal, là au contraire, c'est du partage qui est totalement encouragé. De la même façon que quand vous avez été voir votre ami qui vous a fait un plat, vous êtes reparti avec la recette de cuisine parce que vous l'avez demandé, elle ne vous a pas dit « Ben non, je ne vais pas te donner ma recette de cuisine, je vais partager avec toi. » Dans le logiciel libre, c'est la même façon. Et on peut également redistribuer, et on est encouragé à redistribuer, les contributions qu'on a apportées au logiciel libre. De manière, en fait, tout simplement à faire quoi? Exactement sur le même modèle, quelque part, de la recherche scientifique. Les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une base de connaissances sur laquelle ils s'appuient. Ils font des études, ils démontrent des théorèmes. Ils rajoutent une connaissance qu'ils remettent au pot commun pour construire de la connaissance par couche. Ils ne réinventent pas tout de A à zéro. Ils partent d'un espace de connaissances existant, ils rajoutent quelque chose, il y a une revue par les pairs, il y a la publication, et la connaissance s'améliore de cette façon-là. Le logiciel, c'est exactement la même chose. Et cette liberté de redistribuer des versions modifiées, quelque part, on remet au pot commun du logiciel libre la correction au bug que l'on a fait, ou la contribution que l'on a rajoutée. Et il est évident que si on est un utilisateur, que ce soit un utilisateur, grand utilisateur, ou une entreprise, ou un développeur, qu'on a rajouté une fonctionnalité, c'est parce qu'on en avait besoin. Il est évident que si on en avait besoin, forcément d'autres personnes en avaient besoin. Donc le fait de contribuer en rajoutant intéresse évidemment les autres qui récupèrent cette contribution, et de même, eux-mêmes vont rajouter cette contribution, leur propre contribution après. Donc on voit bien qu'on construit du logiciel libre par briques successives, où on part d'un état de l'art, on rajoute juste ce qu'on a besoin, ou on corrige les bugs que l'on a besoin. Et ces quatre libertés, utilisation, étude, modification, redistribution, sont accordées à tous, sans critères. C'est-à-dire que vous soyez un simple utilisateur, une grande entreprise, une collectivité, un pays, vous avez ces fameuses quatre libertés. Qu'est-ce qui s'oppose à logiciel libre ? Ce qui ne s'oppose pas à logiciel libre, c'est logiciel commercial. Dans ce que je vous ai expliqué pour l'instant, je ne vous ai pas parlé de gratuité. Je vous ai même dit, vous vous êtes procuré le logiciel libre sous une forme ou une autre. Acheter, ou télécharger, ou copier. La plupart des logiciels libres sont certes accessibles gratuitement sur Internet, mais vous pouvez avoir à payer pour des logiciels libres. Il y a une société française, par exemple, qui s'appelle Mandriva, qui fait ce qu'on appelle une distribution de logiciels libres, c'est-à-dire un CD-ROM sur lequel il y a un tas de logiciels libres qui vous permet d'installer un ordinateur pour répondre à tous vos besoins. Vous faites de la bureautique, des jeux, de l'Internet, etc. Et vous avez un manuel, et au final, vous avez une machine qui est installée en logiciel libre. Eux, ce qu'ils vendent, effectivement, c'est du logiciel libre. Mais par contre, ils ne peuvent pas vous restreindre les quatre libertés. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez acheté votre distribution Mandriva, si vous voulez l'installer, comme je vous l'ai dit, sur un poste ou sur 10 postes, vous faites comme vous voulez. Ce qui s'oppose à logiciel libre, on détaillera un peu après, si vous voulez, les modèles économiques autres que, la vente de logiciels libres. Ce qui s'oppose à logiciel libre, c'est le logiciel propriétaire, traditionnellement connu, Microsoft, Apple, etc. Alors aujourd'hui, il y a un terme qui commence à arriver qui est le logiciel privateur aussi, parce qu'on considère que le logiciel propriétaire est privateur de liberté. Dans un logiciel propriétaire, quelle liberté vous avez ? Vous avez un logiciel propriétaire, en gros, vous avez à peine la première liberté d'usage, d'utilisation, parce que vous avez une licence d'utilisation qui vous dit, bon, en gros, tu as payé tant pour tel logiciel, ou en tout cas, tu as une licence d'utilisation qui te dit que tu peux l'utiliser sur un poste, mais pas sur deux. Par contre, vous n'avez pas le code source, donc vous ne pouvez pas l'étudier, vous ne pouvez pas le modifier, et puis vous ne pouvez pas faire des copies de logiciels propriétaires, parce que c'est interdit. C'est ce qu'on appelle de la contrefaçon. Et dans le mode de développement, finalement, informatique, vous avez deux modes possibles aujourd'hui. Vous avez un mode dans lequel, en fait, vous avez une entité, en l'occurrence une entreprise, qui décide de l'évolution des logiciels qu'elle construit. C'est le modèle propriétaire. Cette évolution est dictée par un seul critère, qui est celui du marché. Une entreprise, son business, c'est de faire de l'argent. C'est pas mal en soi, c'est un constat. Donc elle ne développe des logiciels que par rapport à l'existence d'un marché. Elle ne corrige des bugs que si, économiquement, c'est un intérêt pour elle. Elle ne rajoute des fonctionnalités que si, économiquement, elle a un intérêt pour elle. Et à côté de ça, vous avez le logiciel libre qui peut se développer par rapport à un marché, l'existence d'un besoin dans un marché spécifique, par exemple des collectivités locales qui ont besoin, par exemple, d'une gestion de parcs-mètres. Elles peuvent très bien commander à une société un développement spécifique en logiciel libre. Mais le logiciel libre peut aussi se développer simplement par l'existence d'un besoin. Il y a un besoin quelque part, par exemple un bug à corriger, et bien il suffit juste d'avoir les compétences pour le faire et pour corriger ce bug. Alors, l'un des exemples, c'est tout ce qui tourne autour de la localisation des logiciels. La localisation des logiciels, ça consiste à adapter un logiciel à un espace spécifique local, par exemple par rapport à la langue, au système monétaire. Dans le cas du logiciel propriétaire, la plupart des logiciels propriétaires, même la quasi-totalité, ne sont disponibles que dans les langues dites majoritaires, parce que là, il y a un marché. Dans les langues, pour un certain nombre de langues dites minoritaires, où il n'y a pas forcément de marché, ou en tout cas, on pense qu'il n'y a pas forcément de marché, le logiciel propriétaire ne sera pas disponible dans la langue minoritaire. Par contre, dans le cas du logiciel libre, il n'y a pas besoin qu'il y ait un système économique en place. Il suffit juste qu'il y ait des gens qui aient le besoin, l'envie d'avoir le logiciel qui soit localisé par rapport à leurs propres usages, pour que simplement ils puissent le faire. Et voilà ce qui différencie finalement le logiciel libre du logiciel propriétaire, c'est qui a les droits d'évolution par rapport à l'informatique, par rapport à l'outil qui est livré. Et on voit bien, et je pense que Pierre-Yves pourra détailler les avantages, mais on voit bien que quand on est face à un modèle où une seule structure est décisionnaire de l'évolution du logiciel, on arrive effectivement à des choses qui sont contraintes par rapport aux décisions, on n'a pas d'indépendance. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un bug qui est bloquant dans un logiciel propriétaire, ben vous ne pouvez pas demander à votre système informatique, à votre service informatique, de le corriger. Il faut espérer que l'éditeur le corrige. Par contre, dans le cas du logiciel libre, si vous avez un bug qui est bloquant dans un logiciel libre, vous pouvez demander à votre service informatique d'investiguer le problème et de le corriger parce qu'ils ont le code source, ou vous pouvez passer une prestation à une société de service pour qu'il corrige le bug. En introduction, je vais juste finir sur l'intérêt pour le grand public direct et prendre un exemple par rapport à l'espace où on est là, une bibliothèque, ou tout espace public numérique dans lequel, en fait, on sensibilise les gens à l'informatique. Quand on sensibilise les gens à l'informatique à partir de logiciels propriétaires, bien que je puisse concevoir qu'il y ait des raisons pour ça, évidemment, on place le public dans une situation difficile, sur un point précis notamment, qui est que, par exemple, quand on explique aux gens comment, par exemple, faire des CV avec Word, enfin, ça s'appelle maintenant MS Office, on leur donne une démonstration, on leur montre, on leur explique comment faire, mais concrètement, la personne, elle fait quoi après, quand elle rentre chez elle, si elle n'a pas MS Office ? Ah ben, elle va devoir l'acheter, le payer. De même, on fait une démonstration démonstration de faire une photo retouche d'image sous Photoshop. Pareil, la personne qui rentre chez elle, qui n'a pas forcément Photoshop, plouf, elle repasse à la caisse, obligatoirement, pour pouvoir installer Photoshop. Donc on voit bien, évidemment, que sensibiliser les gens avec du logiciel propriétaire, même si aujourd'hui, c'est quasiment une obligation, parce qu'il y a vraiment un monopole, et que de nombreuses entreprises demandent la maîtrise de Word, etc., on voit quand même que ça a un impact direct sur le pouvoir d'achat des gens qui sont là, parce que quelque part, on les force à acheter un logiciel propriétaire. Par contre, si on fait la même chose avec du logiciel libre, par exemple, on montre comment faire un CV avec OpenOffice, éventuellement même, peut-être en choquer certains, éventuellement même en le sauvegardant, en montrant comment on peut le sauvegarder dans un point doc, si vraiment le client qui est en face, à qui on veut envoyer son CV, enfin le client, la structure veut du point doc, mais on le montre avec OpenOffice. La personne qui chez elle n'a pas OpenOffice, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle peut le télécharger sur Internet, ou la bibliothèque qui est là, elle peut simplement dire à la personne, ramenez-moi un CD-ROM ou un DVD, et moi je vais vous graver le logiciel libre OpenOffice. Et donc on voit bien que pour la réduction de la fracture numérique, ce qu'on appelle la fracture numérique, qui est l'une des grandes ambitions de notre gouvernement actuel, recourir au logiciel propriétaire, c'est une impasse totale. La seule véritable solution, évidemment, c'est d'aller vers le logiciel libre, qui à la fois en termes de développement permet un développement coopératif et des logiciels qui vont être globalement de meilleure qualité, globalement plus sécurisés, globalement plus accessibles, mais également être beaucoup plus accessibles en termes financiers, même si pour autant, la gratuité n'intervient pas dans la définition du logiciel libre.
Bien. Je pense que... Donc déjà, on a vu que logiciel libre, ça signifiait pas forcément gratuit. On a vu que ça répondait pas à un marché, mais à un besoin. Là, un exemple type, c'est celui de Windows, qui, jusqu'en 2002, n'était absolument pas traduit, par exemple, en alsacien. Alors, on pourrait se dire, effectivement, pourquoi est-ce qu'il faudrait traduire Windows en alsacien ? Bah, tout simplement parce qu'il y a des Alsaciens qui parlent alsacien et qui ont envie d'utiliser le logiciel qu'ils ont acheté dans la langue qu'ils utilisent quotidiennement ou qu'ils ont envie d'utiliser. Et pendant très très longtemps, en fait, Windows n'a pas été traduit en alsacien parce que les Alsaciens n'étaient pas assez nombreux. Si on prend le cas d'OpenOffice, donc qui est un équivalent de la suite Office de Microsoft, OpenOffice.org a été traduit très très rapidement dans un très très grand nombre de langues. Si je ne veux pas dire de bêtises, dès la version 1, il y avait plus de 35 langues, y compris des langues extrêmement... qui ne représentaient pas beaucoup de personnes. Mais le fait d'avoir accès à la recette de cuisine a permis à ces personnes, du coup, d'adapter le logiciel, de récupérer juste la partie de la recette qui les intéressait, c'est-à-dire la langue, et puis de permettre de traduire le logiciel en alsacien. Et je trouve que cet exemple illustre assez bien les apports du logiciel libre. C'est qu'on peut vraiment s'approprier le logiciel, contrairement justement au logiciel propriétaire, dont l'éditeur reste le propriétaire. C'est bien là toute la différence, c'est que lorsque vous achetez un logiciel propriétaire, il ne vous appartient pas. Lorsque vous téléchargez un logiciel libre, vous n'avez pas besoin forcément d'être l'auteur, mais vous allez pouvoir être libre de pouvoir en faire des nouvelles versions, de pouvoir l'adapter à vos besoins. Si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez. Si vous voulez le prêter, vous le prêtez. Si vous voulez le donner, vous le donnez. Donc c'est vraiment les principales différences. Maintenant, ce dont on peut éventuellement parler, c'est les avantages techniques du logiciel libre. Donc comme Frédéric l'a dit, le fait d'avoir des logiciels qu'on va pouvoir utiliser et qui vont utiliser... On n'a pas parlé de format ouvert encore, je crois. À moi les formats ouverts. Donc le fait d'utiliser des logiciels libres, donc des logiciels dont vous avez la recette, signifie que lorsque vous allez enregistrer les fichiers qui vont avec ce logiciel-là, je vais prendre le cas d'un fichier texte, vous avez un fichier texte, lorsque vous l'enregistrez, il va être compressé d'une certaine façon, il va être modifié, etc., de façon à ce que le logiciel reconnaisse le texte qu'il y a dedans, il va reconnaître le gras, il va vous afficher du gras. Si vous utilisez, par exemple, et ça, on a entendu le cas tout à l'heure, d'anciennes versions, par exemple, de Word, vous utilisiez un format de fichier, d'un logiciel qui date d'il y a 10 ans, vous n'êtes pas assuré aujourd'hui de pouvoir l'ouvrir. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que peut-être que la société qui éditait le logiciel n'existe plus, peut-être que l'ordinateur avec lequel vous aviez acheté le logiciel qui vous a permis de créer ces fichiers n'existe plus, il est tout simplement mort, il a pris la foudre, que sais-je, et du coup, vous n'avez plus pouvoir l'utiliser. Donc, un des avantages d'utiliser du logiciel libre, c'est la pérennité déjà de vos données. Donc, je ne sais pas si tu veux ajouter sur les formats ouverts, on revient dessus. Ça c'est un des avantages techniques du logiciel libre. Parmi les autres avantages techniques, et je ne reviens pas forcément longuement dessus, Frédéric les a détaillés tout à l'heure, il y a le fait que lorsque vous allez utiliser un logiciel libre, vous allez pouvoir le modifier, l'améliorer selon vos besoins. Donc vous, en tant qu'utilisateur lambda, vous n'êtes pas forcément développeur, vous n'avez pas forcément les compétences pour le modifier. Par contre, vous allez pouvoir demander à ce que ces modifications soient faites, et éventuellement, si ces modifications correspondent aux besoins d'autres personnes, si parmi ces autres personnes se trouvent des gens qui ont les compétences pour le faire, eh ben, il y a des chances pour qu'elles soient rajoutées. Donc là, c'est une des parties dont on a assez peu parlé jusqu'à présent, c'est la partie communautaire du logiciel libre. Donc, puisque tu connais bien le modèle de développement, je sais pas, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur le... Comment est-ce que naît un logiciel libre, finalement ?
On dit souvent qu'un logiciel libre, ça correspond à c'est un développeur, quand ça le gratouille quelque part, il crée un logiciel libre. Parce qu'il a un besoin, à un moment. Il y a différentes façons de démarrer un logiciel libre. Hein, mais globalement, ça démarre toujours d'un besoin. Quand on regarde, par exemple, comment a démarré le noyau Linux, le Finlandais Linus Torvalds, à l'époque, était étudiant. Il voulait comprendre comment fonctionnait à l'époque l'architecture d'Unix. Bon, peu importe les détails techniques. Et il n'avait pas à disposition d'outils. Il y avait très peu de moyens à l'époque. Il n'y avait que des outils propriétaires très chers, donc il ne pouvait pas se l'acheter. Donc il s'est dit, moi j'aimerais bien voir comment ça fonctionne. Les bouquins m'expliquent comment fonctionne l'architecture, machin. Mais ça ne me suffit pas. Ben, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, je vais commencer à développer quelque chose par moi-même. C'est-à-dire, je vais lire les livres et puis je vais commencer à implémenter. Et puis ce qui est devenu au départ, ce qui était à la base au départ un hobby pour apprendre, mais il y a d'autres personnes qui sont arrivées, qui ont vu ce qu'il a fait, qui ont se dit « Ah, c'est intéressant comme projet » et qui l'ont rejoint. Et le succès, notamment du noyau Linux, est beaucoup lié à sa date d'arrivée. Il est arrivé à un moment, 91-92, où Internet commençait à se démocratiser de façon très importante. Et quelque part, le logiciel libre a été précurseur des modes qu'on voit aujourd'hui de création coopérative de contenu numérique. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, avant, pour créer quelque chose, que ce soit du logiciel ou autre chose d'ailleurs, physiquement vous deviez être un peu au même endroit, dans une même structure, entreprise, bureau, etc. Que là, tout d'un coup, avec le développement des réseaux, notamment du principal réseau Internet, vous avez eu des gens finalement qui partageaient un certain nombre de besoins, de compétences, et qui étaient physiquement au même endroit, ou plutôt virtuellement au même endroit, sur le réseau, tout en étant physiquement dans des endroits différents, certains en France, d'autres à l'étranger, etc. Et ils avaient des outils qui leur permettaient, en fait, de travailler en commun. Parce que développer du logiciel, c'est du numérique. Donc, quelque part, ces gens-là, finalement, ont commencé à s'agréger sur des projets communs. Et là où, anciennement, vous aviez des projets où vous aviez 5, 6 personnes, 10 personnes qui travaillaient ensemble, tout d'un coup, vous avez potentiellement des centaines de personnes, voire des milliers de personnes, qui partagent les mêmes envies et qui se regroupent sur un sujet et qui commencent à produire du code, du logiciel. On le voit dans d'autres domaines, d'ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le contenu créatif produit par les utilisateurs sur Internet se développe. On le voit aussi dans des domaines très variés. Moi, par exemple, ma femme, elle fait de la couture. Alors, elle fait de la couture il y a 15 ans. Son champ de connaissance de la couture, ça aurait été le quartier où on habite, à Saint-Denis, et la famille, en gros. Aujourd'hui, la plupart des gens avec qui elle discute de couture, elle les a jamais vus physiquement. C'est sur Internet, c'est sur des réseaux, c'est sur des forums où elles échangent quoi ? Elles échangent des patrons, des idées. Et quelque part, elles produisent ensemble quelque chose autour de la couture, comme d'autres font autour de la musique et comme le logiciel libre fait dans le domaine informatique. Et c'est aujourd'hui la vraie révolution. Le double sujet aujourd'hui du débat, c'est à la fois logiciel libre et culture libre. C'est cette révolution numérique où vous avez la convergence de deux choses. Développement de réseaux qui mettent en relation non pas des machines, mais des êtres humains, qui partagent des intérêts communs, et puis dématérialisation des activités. C'est-à-dire que le logiciel, c'est de l'immatériel par défaut, c'est du binaire, etc. Mais on voit aujourd'hui que la musique devient de plus en plus immatérielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la musique, principalement, elle est téléchargée sur Internet, légalement ou pas. Elle est de moins en moins vendue sur des supports physiques. Donc cette dématérialisation des activités, c'est vrai aussi dans le cinéma, etc., et des gens qui partagent en commun un intérêt, fait que, tout d'un coup, ils ont un espace de jeu quelque part créatif extraordinaire, où ils peuvent produire du contenu. Et la grande force qui a été celle du logiciel libre, ou sa grande chance, c'est que dans sa définition, on n'a pas mis de restrictions commerciales. Alors c'est pour ça, par exemple, tout à l'heure, j'ai signé le papier autorisant la diffusion de cette vidéo sur Internet. Et traditionnellement, il y avait la phrase « j'autorise la diffusion sur Internet de façon non commerciale ». Non, moi j'ai rajouté « et de façon commerciale ». Parce qu'au nom de quoi quelque chose qui est produit là, je vais interdire à quelqu'un d'en faire commerce. Imaginons très simplement que quelqu'un se dise « bon, tiens, je veux faire un DVD sur la culture libre en général ». Alors bien que le terme culture libre, il faut le définir, mais bon, sur la culture libre en général, allez, on y va. Et il prend des interventions de différentes personnes. Ce DVD, il va le vendre. Non pas forcément pour devenir millionnaire, mais juste pour couvrir les coûts d'impression de DVD. Donc il va peut-être le vendre, je ne sais pas, 5-6 euros. Eh bien si, les vidéos qu'il récupère sur Internet, il ne peut pas les utiliser de manière commerciale, c'est-à-dire vendre le DVD. Il devra à chaque fois demander l'autorisation à la structure. Bon, est-ce que j'ai l'autorisation dans ce cas précis de projet de mettre sur un DVD ce contenu que vous avez fait pour pouvoir éventuellement le vendre entièrement juste pour couvrir mes frais. Globalement, la personne va dire oui, mais c'est une perte de temps monstrueuse. Imaginez qu'il doit faire ça sur de milliers de vidéos, il ne le fera pas. Mais dans le cas du logiciel libre, le fait justement qu'il n'y a pas de restriction commerciale permet à des sociétés comme Mandriva, dont j'ai cité le nom, mais Red Hat aux États-Unis, de prendre des tas de logiciels libres qui sont disponibles, librement rediffusables, sans restriction commerciale, de le mettre sur un CD ou de le mettre sur un site pour en téléchargement avec un outil d'installation et de vendre l'ensemble. Et ça, ça a été la grande force du logiciel libre, c'est de permettre de développer des modèles économiques alors basés d'abord sur la vente du logiciel libre, mais également de services. Parce qu'on peut prendre l'exemple des avantages du logiciel libre, c'est le développement de services en local. L'un des grands enjeux aujourd'hui de l'informatique, c'est ce qui va se passer dans les pays du Sud. Les pays du Sud ont une grande chance pour l'instant, c'est qu'ils n'ont pas encore un monopole de Microsoft très fort. Pour l'instant, ils sont relativement tranquilles de ce côté-là. Et en gros, ils ont deux modèles de développement possibles dans les années à venir pour l'informatique. C'est choisir l'option de Microsoft qui leur dit, en gros, on va vous donner des licences pas très chères pour vous équiper, parce que bon, vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et puis, mettre le pied dans un engrenage, un petit peu comme la première dose de drogue, elle est pas très chère, voire gratuite. Mais le problème, c'est que 15 ans plus tard, on est en train de payer les autres doses. Donc ça, c'est le premier modèle où Microsoft se permet effectivement de faire des prix sur les licences pour créer un marché captif. Et ensuite, ces gens-là, évidemment, quand il y aura des mises à jour de logiciels, ils devront, à ce moment-là, payer à la caisse de façon de plus en plus importante. Ça, c'est le premier modèle. C'est un développement qui permet, en gros, à une structure américaine, mais ça pourrait être une autre structure européenne, peu importe, mais en tout cas, en dehors de ce pays, de prendre des revenus et les envoyer à l'extérieur, et sans développement réel local. Et puis, à côté, vous avez le développement logiciel libre, qui est de se dire simplement, ben, je fais le choix de recourir à des solutions logicielles libres. Donc déjà, ça me coûtera moins cher, évidemment, en termes de licence. Mais également, en plus, je vais permettre de développer une expertise locale. Parce que justement, comme les logiciels libres sont disponibles avec leur code source, leur recette de cuisine, les gens qui apprennent l'informatique dans les pays du Sud vont pouvoir se former, voir comment les algorithmes sont implémentés, et éventuellement aussi développer une économie de service. Telle administration, par exemple, d'un pays voudra s'informatiser avec du logiciel libre, eh bien, vous aurez des gens qui vont créer une société de services pour les accompagner. Le service, c'est quoi? C'est l'installation de logiciel libre, c'est la formation, expliquer comment on utilise OpenOffice, Firefox, etc. C'est l'adaptation des besoins particuliers, c'est la maintenance, l'évolution des mises à jour. Et là, on voit qu'on a un développement d'une économie locale par rapport à une économie de rente, celle du logiciel propriétaire, où tout part finalement à l'étranger, sans développement de compétences locales. Donc c'est vraiment un enjeu de société de logiciels libres. Et au-delà de ça, le développement des réseaux numériques et la dématérialisation des activités permet de générer du contenu créatif de façon très importante, même si, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes à des industries traditionnelles, dont le métier est de servir d'intermédiaire, alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'intermédiaire. Le problème, par exemple, de la musique aujourd'hui, et notamment des intermédiaires qui vendent des CD, c'est que ça ne sert plus à rien de vendre un CD. Il n'y a aucune valeur ajoutée de mettre de la musique sur un CD à partir du moment où la musique, on peut la télécharger. C'est clair. Donc il y a un certain nombre d'intermédiaires qui sont remis en cause dans ce domaine-là, mais on est face à une véritable très force créative sur Internet qui va se développer de plus en plus. Et clairement, le logiciel libre a vu ses plus gros développements ces dernières années, Tout simplement parce que c'est ces dernières années qu'Internet s'est développé de façon la plus forte et donc a permis de mettre en relation des développeurs et des utilisateurs. Moi, je me souviens quand la première fois que j'ai dû télécharger, enfin, j'ai essayé de télécharger un logiciel libre, bon, c'est il y a très longtemps, je suis relativement vieux, je suis arrivé à la fac, j'étais en première année. À l'époque, en première année, on n'avait pas accès à Internet. J'ai dû demander à quelqu'un qui était dans le laboratoire d'intelligence artificielle, donc en DEA. Lui, je savais qu'il avait une connexion Internet. Je lui ai dit, bah, là, on aimerait bien installer tel logiciel libre dont on a entendu parler. Est-ce que tu pourrais nous le récupérer? Il nous l'a récupéré. Vous imaginez la difficulté. C'est complexe. Quelques années plus tard, j'étais dans la même fac. Les étudiants qui arrivaient en première année, il y avait accès à Internet en première année. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils installaient des logiciels libres et téléchargeaient très facilement. Donc, le fait qu'Internet ait mis en et se soit développé ces dernières années a permis de développer très, très, très fortement le logiciel libre. Et c'est pour ça aussi que, dans, quelque part, le combat libre-propriétaire, le propriétaire a perdu d'avance. Parce qu'on ne peut pas lutter contre des gens qui sont simplement créatifs, qui veulent produire, qui, en plus, il y a des modèles économiques qui leur permettent de vivre pour ceux qui veulent. On ne peut pas tenir sur ce modèle propriétaire à côté où, quelque part, on essaie de tout contrôler en se disant tout le reste du monde est autour de nous et eux, ils produisent des trucs créatifs, alors que nous, on essaie de tout contrôler. Ce n'est pas possible. Donc on est à un moment de rupture où, dans le monde du logiciel, clairement, le modèle propriétaire disparaîtra. Alors évidemment, ça va être dur, parce qu'aujourd'hui, pour faire bouger Microsoft, c'est compliqué, surtout que pour le grand public, il y a un frein monumental. Là, dans la salle, il y a deux experts, c'est que... La plupart des gens ne savent pas que le logiciel libre existe, pour une raison très simple. Vous allez dans un magasin, vous allez acheter un ordinateur. La personne qui vous vend l'ordinateur, préinstallé avec Microsoft Windows. Donc la personne qui n'a même pas entendu parler de logiciel libre risque pas d'entendre parler de logiciel libre à ce moment-là, parce qu'elle repart avec un Microsoft Windows. Alors en outre, ça pose un problème. Deuxième problème, c'est que, et j'en parle parce que c'est vraiment important, il n'y a pas l'affichage des prix de chacun des éléments, ni des conditions d'utilisation. Donc là, ça pose des problèmes de prise de conscience de l'importance des différents éléments. C'est-à-dire que quand on achète l'ordinateur, on ne sait pas ce qu'on paye en partie matérielle, on ne sait pas ce qu'on paye en partie logicielle, et on ne sait pas les conditions d'utilisation. Et on retrouve un phénomène classique qui m'amuse toujours autant, même si c'est triste pour la personne qui l'utilise, c'est qu'elle achète un ordinateur préinstallé de Windows avec un antivirus. Parce qu'évidemment, avec Windows, il vaut mieux un antivirus. Et généralement, les antivirus, ils sont livrés en mode test pendant 2-3 mois. Mais qu'est-ce qui se passe? Pendant 2-3 mois, la personne, elle est relativement contente. Ouais, elle découvre l'informatique, ça marchote. Bon. Puis au bout de 3 mois, boum, l'antivirus, il lui dit « Attendez, là, ça fait 3 mois que je travaille tout seul gratuitement, maintenant il faut me payer. » Et là, la personne, elle ne comprend pas. Elle ne peut pas comprendre parce qu'elle se dit « Mais j'ai acheté l'ordinateur, j'ai payé l'antivirus. Pourquoi je suis obligé de repayer ?» Et là, on arrive à une situation où les gens ne comprennent plus finalement où passe la valeur dans le matériel, dans l'immatériel, etc. Donc nous, ce qu'on demande notamment dans les combats contre ce qu'on appelle cette vente liée, ces racketticiels, c'est que quand aujourd'hui, ou enfin quand demain, les gens iront acheter des ordinateurs dans le commerce, ils aient l'affichage des prix des différents éléments, la description des conditions d'utilisation des licences, des différents éléments. Donc par exemple, telle version, c'est une version d'usage, d'évaluation, telle version, c'est une version complète, etc. L'optionnalité, c'est-à-dire la possibilité de ne prendre qu'un des éléments. Moi, si je vais acheter une machine avec, par exemple, et que je veux installer derrière du logiciel libre, pourquoi j'irais payer une licence Windows? Non, je veux juste l'ordinateur, la partie matérielle. Et bien entendu, après, ça développera pour certains nombres de constructeurs un modèle où ils commenceront à proposer des systèmes avec du Windows, du logiciel libre et autres. Et ça, c'est le frein profond, principal, pour la découverte du logiciel libre dans le grand public. Et c'est là où les bibliothèques, les espaces numériques ont un rôle à jouer, c'est justement de les sensibiliser sur l'existence de ces questions-là, pour qu'après, quand la personne se dise « moi, je vais acheter un ordinateur dans le commerce », elle aille voir le vendeur et lui dise « écoutez, monsieur, moi, vous ne m'aurez pas, je veux acheter que la partie logicielle, que la partie matérielle, ou alors je veux un système préinstallé avec mon Driva, par exemple, et ça ». Qu'elle lui pose la question, de manière à ce que ça remonte dans la hiérarchie, le vendeur qui se dit « tiens, il y a des gens qui me demandent du logiciel libre, il y a des gens qui me demandent combien coûte la licence Windows », et que ça remonte juste en haut. Parce qu'il faut juste savoir une chose, c'est que cette pratique de vente liée est illégale, mais aujourd'hui, personne n'y met fin. Et c'est vraiment le principal frein à la diffusion du logiciel libre dans le grand public. Parce que les outils sont prêts, il y a juste cette barrière à faire capoter. Et je suis trop long, donc je te passe la parole.
Non, moi je ne fais que poser les questions. N'est-ce pas? Bravo, il y en a qui applaudissent. Oui, je vois qu'il y a une question.
Et j'ai posé la question de savoir si je pouvais installer Linux ou XP, que je connais mieux. Et on m'a dit, oui, vous pouvez très bien, mais vous n'aurez pas les pilotes d'écran. L'écran donne n'importe quoi. Même chose pour la gestion de la souris intégrée. Même chose éventuellement pour le Wi-Fi intégré, etc. Donc il y a la question des pilotes qui est très, très difficile à mon avis. Plus que c'est un logiciel libre que je connais relativement bien.
Alors, sur la question des pilotes, vu que Pierre-Yves ne veut pas répondre, il y a deux réponses. La première, c'est que globalement, il y a beaucoup plus de problèmes de pilotes dans le monde propriétaire qu'en dans le monde du libre aujourd'hui. Moi, je le vois parce que j'ai quand même des copains qui sont encore sous Windows, qui restent mes copains par ailleurs. Mais franchement, je les vois galérer grave parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Cependant, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes de pilotes dans le monde du logiciel libre, mais ce n'est pas dû au logiciel libre. Le problème, il vient d'où ? C'est qu'un matériel, qu'est-ce qu'on appelle un pilote de périphérique ? Un périphérique, bon, vous voyez à peu près ce que c'est un truc matériel, par exemple une carte vidéo, une carte Wi-Fi, etc. Ben, il faut pouvoir lui causer. Donc il faut pouvoir lui envoyer des instructions. Et pour lui envoyer des instructions, il existe des pilotes, ce qu'on appelle en anglais des drivers. Donc c'est un bout de code qui permet de piloter, évidemment, le périphérique. Le problème, c'est que la plupart des périphériques, les spécifications de leur langue sont inconnues. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui a construit le périphérique et qui a donc écrit des spécifications pour pouvoir lui parler ne les rend pas publiques. Microsoft y a accès parce qu'ils ont des accords de partenariat financier, mais le reste du monde n'a pas accès à ces pilotes. Alors, dans ce cadre-là, qu'est-ce que fait le monde du logiciel libre pour pouvoir écrire son propre pilote, pour pouvoir piloter, parler à ce périphérique ? Ben, il fait ce qu'on appelle de l'ingénierie inverse. C'est-à-dire qu'il part en gros, bah comme si vous partiez, comme je vous expliquais tout à l'heure, du plat cuisiné pour essayer de retrouver la recette de cuisine. Alors comme les gens du logiciel libre sont quand même des gens très forts, qu'en informatique on peut quand même retrouver un certain nombre d'informations, ils arrivent à écrire des pilotes qui globalement fonctionnent à 80-90%. Mais des fois effectivement, il y a un petit truc qui ne fonctionne pas parce que tout simplement, ils n'ont pas réussi à analyser bon, cette trame, enfin ce message, qu'est-ce qu'il signifiait. Si demain, les constructeurs... Dans un simple respect de libre concurrence, on n'en demande même pas d'avoir des aspects philosophiques ou autres, on demande juste un respect de libre concurrence, et juste de se dire qu'il y a peut-être effectivement des utilisateurs à gagner dans le monde du logiciel libre, ben qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Ben, ils diraient simplement, moi, ma carte Wi-Fi, par exemple, les spécifications pour écrire un pilote, ils sont disponibles. Moi, je fournis un pilote pour Windows, parce que bon, c'est mon cœur de métier, etc. Ben, les gens du logiciel libre, si vous voulez écrire un pilote, vous avez les spécifications, c'est-à-dire que vous avez exactement comme si vous aviez la langue, c'est-à-dire la grammaire et le vocabulaire de ce pilote, vous écrivez votre code, et comme ça, effectivement, quand vous installerez du logiciel libre avec mon matériel, ça fonctionnera. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas pour tous. Il y a quelques années, notamment dans le domaine de la... Vous parliez des écrans. L'une des grosses galères, il y a quelques années, c'était effectivement les écrans, les cartes vidéo, parce que la plupart des cartes vidéo, les spécifications n'étaient pas connues. Donc, on faisait de l'ingénierie inverse, donc c'était relativement complexe. Aujourd'hui, de ce côté-là, ça s'est vraiment en grande partie réglé. Il y a effectivement quelques problèmes sur des cartes Wi-Fi et autres. Donc c'est vrai que c'est une des difficultés. Et c'est pour ça que les constructeurs ont un rôle à jouer. Parce que les constructeurs, quel rôle ils ont à jouer ? Ben, c'est de présélectionner du matériel avec une distribution qui fonctionne. Si demain, vous achetez un ordinateur en disant, par exemple, ben voilà, moi aujourd'hui, vous voulez XP. Ben, votre vendeur vous dit, ben voilà, votre code d'activation pour XP. Vous rentrez chez vous avec votre machine, vous tapez ce code d'activation, vous aurez XP. Pour la même machine, moi je viens le voir, je lui dis XP, j'en veux pas. Moi, cette machine, je la veux avec Mandriva, par exemple. Ce qui devrait t'étonner, mais.
Oui, un peu. Hein.
Mais disons Mandriva. Et il me dit, bah ok, bah vous n'avez pas besoin de code d'activation, je vous la lève, mais il met un code d'activation pour supprimer XP ou je sais pas ce qu'il fait, mais en tout cas, il me dit, oui, c'est possible. Vous repartez avec Mandriva. Par contre, lui, il a fait son travail de me dire qu'effectivement, les matériels qui sont dans la machine, ils fonctionneront à la fois avec XP et avec Mandriva. Et ça. Ça fera gagner un temps fou. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui que des utilisateurs aient à installer des systèmes d'exploitation. Et d'ailleurs, moi, je vous mets au défi. Tous ici.
Tous.
Je vous mets au défi d'arriver à installer correctement du Windows sur des matériels différents. Et moi, je vous mets au défi. Vous prenez un Mandriva ou une Ubuntu. Vous prenez un Vista ou je ne sais pas quoi, quelle version de Windows. Vous parlez de la même machine. Je vous parie qu'il y aura plus de personnes qui arriveront à installer la distribution logicielle libre fonctionnel en moins de temps que les gens qui installeront du Vista. Ça, je vous le parie. Simplement, les gens pensent que c'est plus compliqué avec du logiciel libre parce qu'ils ne le font pas. Parce que jamais ils installent du Windows. Jamais. C'est préinstallé. Jamais ils installent du Windows. Les seuls qui s'en sortent réellement quand il y a des problèmes, c'est parce que le mari, il est un peu informaticien, machin, etc., ou la femme, elle travaille dans l'informatique. Mais la plupart des gens n'installent pas le système d'exploitation. Et c'est normal. Ils n'ont pas à en installer. C'est un peu comme les bagnoles. Les bagnoles, elles sont livrées, machin, etc. Bon, ça fonctionne. Voilà. Vous choisissez votre voiture, puis tout. Donc, le jour où vous aurez effectivement la possibilité de choisir quel système vous voulez sur votre ordinateur, vous n'aurez plus ce genre de soucis. Et clairement, au niveau du matériel, aujourd'hui, les problèmes sont vraiment mineurs. Ils ne sont pas liés au logiciel libre. Et je pense que dans les années à venir, les constructeurs, les derniers, vont comprendre qu'il y a un marché à se créer parce qu'il y a des gens qui veulent installer du logiciel libre, tout simplement. Et donc, ils commenceront à mettre leurs spécifications. Donc le travail, il faut bien comprendre que le travail des informaticiens logiciels libres est souvent un travail très difficile parce qu'on leur cache les spécifications qui devraient être totalement publiques. Exactement de la même façon, quand on discute de la compatibilité entre MS Office et Open Office sur le format .doc, on nous dit « Ouais, mais si je récupère du .doc, je ne vais pas être sûr de pouvoir tout lire. » Peut-être des choses qui vont mal s'afficher. Oui, parce que .doc est un format fermé dont les spécifications sont inconnues. Donc les gens d'OpenOffice, c'est pareil. Ils ont fait de l'ingénierie inverse. Ils ont essayé de comprendre comment était écrit .doc. Ça serait quand même beaucoup plus simple qu'on ait les spécifications de ce format, les pages qui nous disent comment ça marche. Puis voilà, OpenOffice écrit un programme qui permet de lire tranquillement. Donc le problème, souvent qu'on attribue au logiciel libre, n'est pas lié au logiciel libre. Et au contraire, le logiciel libre s'en sort vraiment très bien.
Oui, tout de suite, une deuxième question.
Oui, il y a aussi le problème de la facilité d'utilisation et d'ergonomie en fait, de Linux par rapport à Windows. En fait, reste plus compliqué, plus difficile à utiliser.
Est-ce que c'est vraiment plus compliqué ou est-ce que c'est parce que vous êtes habitué depuis des années à utiliser Windows ?
Effectivement, il y a le poids des habitudes aussi, bien entendu.
Parce que, très sincèrement, là, Frédéric disait tout à l'heure qu'effectivement, en termes d'installation, ça pouvait être aussi... c'était plus simple et plus court et plus rapide et plus facile d'installer des systèmes type Mandriva ou Ubuntu pour des personnes qui n'avaient pas forcément l'habitude d'installer ces systèmes-là, et même pour les autres. Et ça, moi, je l'ai constaté encore la semaine dernière où j'étais dans un espace public numérique à Bron, et où les personnes, les animateurs avaient installé effectivement des systèmes d'exploitation libres en remplacement de vieux Windows qui commençaient un peu à traîner la patte. Et aussi sur des nouvelles machines parce qu'elles étaient livrées avec Vista et qu'ils avaient des problèmes d'utilisation avec Vista. Pas là spécialement pour taper sur Vista, mais je vais faire juste un petit sondage. Qui parmi vous a Windows Vista ?
C'est un succès.
Voilà. Ça prouve assez bien. Enfin, voilà. Et la deuxième question, il y aurait eu plus de mains levées. J'aurais posé la deuxième question qui aurait été qui parmi vous en est satisfait ? Et je pense qu'on aurait vu les bras se baisser assez rapidement. Et dans cet espace public numérique, en fait, les personnes ont installé, alors qu'elles n'avaient pas l'habitude d'installer Windows, elles ont refait des réinstallations et de Windows et d'Ubuntu. Et pour elles, il n'y avait pas photo. Et ce n'était vraiment pas des informaticiens. Donc il y a vraiment une facilité, en tout cas, au niveau de l'installation. Au niveau de l'utilisation, je pense que, bon, Frédéric encore plus, mais pour moi qui suis un petit peu l'utilisation et le développement des différentes versions de GNU Linux au travers du temps, il y a encore quelques années, ouais, j'étais vraiment d'accord avec ça. J'utilisais très très peu Linux, entre autres parce que d'un point de vue et ergonomique et d'utilisation quotidienne, je trouvais ça plus lourd. Moi, j'aimais bien les clicodromes. Oui, il y en a qui aiment ça, je t'assure. Et du coup, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, ça répond, enfin, la réponse, comme on disait tout à l'heure, on répondait à un besoin et non pas à un marché, aujourd'hui, on peut vraiment avoir des systèmes libres qui sont tout aussi utilisables, si ce n'est plus, que des systèmes propriétaires, et notamment que Windows. Le cas typique, c'est que moi, je l'ai vu installé dans une maison de retraite. J'ai vu des personnes âgées qui, avant, n'utilisaient jamais d'ordinateur et qui voulaient envoyer, comme tout un chacun, un mail à son petit-fils au fin fond des États-Unis, voire taper un document ou aller sur Internet, tout simplement. Et je les ai vus utiliser une distribution qui s'appelle Ubuntu, donc qui est une version de Linux, et vraiment, mais sans aucun souci, et faire des choses qu'elles n'avaient jamais fait avant sans qu'on leur explique. Ce qui, pour moi, est un grand pas en avant, parce que sous Windows, on avait quand même besoin d'être formé. Donc, tout simplement, pour répondre à ce problème d'ergonomie, à cette question autour de l'ergonomie du logiciel libre, je pense qu'il faut en avoir utilisé relativement récemment, avant d'être aussi... affirmatif en disant que c'est difficile. Vraiment, moi, je vous conseille d'essayer des distributions récentes Et vraiment, on est dans quelque chose de très très accessible aujourd'hui. Notamment, justement, ce qui concerne le téléchargement et l'installation des logiciels, qui se fait aujourd'hui de façon beaucoup plus simple sur des systèmes libres que sur des systèmes propriétaires. Vous savez, quand vous devez aller acheter le CD à la FNAC, le ramener, le mettre dans le CD, dans le lecteur, faire suivant, vérifier si on a bien toutes les bonnes versions, qui nous dit que le pilote ne fonctionne pas, etc. Sous la plupart des distributions Linux, aujourd'hui, vous avez un menu et vous choisissez, voilà, je vais ajouter un logiciel et je veux que ce soit un logiciel de graphisme qui me fasse, je ne sais pas, la retouche photo. Vous avez une petite description, vous cliquez sur « Installer » et dans les 3 à 5 minutes qui suivent, vous avez le logiciel qui a installé et fonctionnel. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous, vous n'avez même pas besoin, entre guillemets, d'ouvrir votre navigateur web pour aller le télécharger et l'installer. On peut parfaitement l'installer de cette façon-là. Et ça fonctionne très très bien.
Si je peux juste ajouter sur cette partie-là, clairement, moi j'ai toujours été honnête avec le logiciel libre. C'est très longtemps que j'en fais, très longtemps que j'en parle. Il y a quelques années, je ne conseillais pas aux gens forcément d'aller sur un poste de travail complet en logiciel libre avant d'avoir discuté avec eux pour savoir où ils en étaient. Aujourd'hui, clairement, en termes d'usage, effectivement, comme le dit Pierre-Yves, c'est très largement supérieur à ce qui existe dans le propriétaire. Et c'est vrai que le principal problème, c'est les habitudes. Mais ça, c'est classique. C'est-à-dire, quand quelqu'un a des habitudes en informatique ou dans un autre domaine et qu'il va sur un autre environnement, d'abord, il est perdu. Et le moindre petit, ce qui pour lui est un tout petit problème, va prendre des proportions très grandes. Très importante. Et surtout parce qu'on a Windows a eu un grand succès, je trouve, c'est de faire croire à l'utilisateur qu'il était responsable des bugs du système. C'est-à-dire que beaucoup d'utilisateurs ont souvent considéré que c'était parce qu'ils s'étaient mal comportés avec le système, qu'ils avaient fait n'importe quoi, qu'en fait ça s'était planté. Alors qu'en fait, non, c'était juste que le système est
mal fichu.
Voilà, j'ai cherché un terme. Et donc c'est vrai que cet utilisateur craintif par rapport à l'informatique, c'est un des grands succès de Windows, parce que ça leur a permis de rester malgré effectivement les limitations de ce système. Et puis un exemple d'utilisateurs très exigeants, qui ont migré il n'y a pas très longtemps vers le logiciel libre sur le poste de travail, c'est les députés français. Les députés français sont des gens très exigeants, parce que ce sont des gens pressés, qui ont besoin que ça fonctionne. Ils ont pourtant été, vu leur poste de travail, migrés vers du logiciel libre. Imaginez simplement au niveau de la direction du système d'information de l'Assemblée nationale, quand ils ont pris la décision d'y aller, ils se sont dit, bon, les utilisateurs, déjà à la base, quand on est à la direction du système informatique, les utilisateurs, c'est pas vraiment ce qu'on préfère, parce que c'est ceux qui appellent quand ça marche pas et qui appellent jamais pour féliciter quand ça marche bien. Donc on se dit, les utilisateurs, déjà, on est un peu embêtés. Alors quand c'est, sans jugement de valeur, quand c'est une secrétaire, le DSI, bon, ça va. Quand c'est le chef de service qui appelle, déjà, il commence un peu à paniquer. Mais là, imaginez, des députés, c'est l'équivalent du chef de service, voire du président de la société. Donc là, il y en a 577. Donc pour la DSI, le fait de passer les postes de travail des députés vers du logiciel libre, c'est un enjeu très important et avec des risques potentiels très importants. La migration a eu lieu l'an dernier. Aujourd'hui, les retours qu'on en a, moi, je vois des députés assez souvent sur des questions législatives et à chaque fois, on leur pose la question. Alors, comment ça se passe avec votre distribution? Vous en êtes content? Et en gros, ils en sont très contents. Alors évidemment, il y a un certain nombre de petits problèmes. Par exemple, des fois, avec un certain nombre de PDA, où ils ont quelques soucis, mais qui est en train de régler. Ils se posent aussi la question, effectivement, de la compatibilité avec la circonscription. Pour la plupart, ils sont restés sous Windows. Mais certains ont la démarche intelligente de se dire « Ouais, je vais passer ma circonscription sous système libre, comme ça je serai compatible, etc. » Mais globalement, ils en sont très contents. Et croyez-moi, si une minorité, même une petite minorité, n'avait pas été très content, ça se serait su. Et la DRSI aurait agi, parce que je vous le dis, 577 députés, c'est 577 patrons en puissance. Donc aujourd'hui, c'est très clairement prêt, effectivement, au niveau poste de travail. Quelqu'un qui, effectivement, ne connaît pas l'informatique, alors lui, vous mettez sur du logiciel libre, il n'y a aucun souci. Quelqu'un qui connaît, l'accompagnement consiste à lui faire comprendre que ce n'est pas les mêmes modes de fonctionnement. Il y a quelques réflexes à prendre, ça prend quelques temps, quelques jours, mais après, ça roule tout seul, quoi.
Oui.
Ah. Alors la mairie de Paris avait lancé une étude confiée à une société pour étudier les coûts de migration vers le logiciel libre, suite notamment aux annonces de la mairie de Munich. Alors ce qui s'est passé, c'est que bon, l'étude, le résultat de l'étude est inconnu, dans le sens qu'il n'a pas été communiqué par la mairie de Paris. Par contre, les journalistes qui ont pu couvrir un peu l'événement ont sorti le fait que Microsoft a proposé en gros une réduction de coûts de licence de l'ordre de 80% à la mairie de Paris. Donc pour le moment, aucune décision n'a été prise, ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs il n'y a pas de migration ou autre, hein, je n'en sais rien, mais pour l'instant en tout cas les résultats de la migration, du coût de migration n'ont pas été rendus publics, et Microsoft a réagi. Et ce qui est intéressant sur l'Assemblée nationale, c'est que par contre la Microsoft n'a pas proposé de coût de réduction à l'Assemblée nationale, mais je ne pense pas que l'Assemblée nationale aurait accepté. Donc la mairie de Paris, pour l'instant, c'est en stand-by. Mais clairement, toute migration de poste utilisateur est toujours compliquée. Que ce soit du libre, du propriétaire, c'est toujours compliqué. Il est toujours plus facile de migrer un serveur, c'est-à-dire un truc qui est dans une salle noire, etc., parce qu'en gros, l'utilisateur, il ne s'en rend pas compte. Si d'un coup, ça passe de Windows à un système libre, du moment qu'il y a continuité de service, lui, il ne voit rien. Par contre, si vous venez le voir et vous lui dites tout d'un coup, ton poste de travail, ton bureau, je vais te le changer, bah là, il va le voir, clairement. Et donc, c'est toujours plus difficile de faire une migration là où il y a des utilisateurs au quotidien.
Juste pour terminer sur la migration, hein, désolé, mais c'était pour reprendre le fil. Il y a une autre institution qui est en train de migrer. Il y en a plusieurs. Hein, on pourrait parler de différents ministères. Mais il y en a un très important qui est en train de migrer comme institution, c'est la Gendarmerie nationale. Et la Gendarmerie nationale, donc, pour rappeler l'historique de cette migration, elle l'a vraiment fait étape par étape. C'est-à-dire qu'avant, il y a encore 4 ans, les gendarmes utilisaient Outlook, Internet Explorer, Microsoft Office et évidemment Windows. Et année après année, ils ont à chaque fois basculé un de leurs outils propriétaires sur un outil libre. Donc ils ont commencé, je crois, par Thunderbird, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était il y a 4 ans, ils ont remplacé le client mail, ce qui leur permet d'envoyer et de recevoir des mails, qui est une application quand même relativement importante pour les gendarmes qui sont 70 000... il y a 70 000 postes qui vont migrer, ils sont bien plus nombreux en France. Ils ont ensuite migré la suite bureautique ou le navigateur, je sais pas. Enfin bon, ils ont fait donc ça sur 4 ans, le client mail, puis ils ont remplacé le navigateur, puis la suite bureautique. Et lorsqu'ils utilisaient finalement un client mail libre, un navigateur web libre et une suite bureautique libre, ils se sont dit, on n'a plus de raison d'utiliser un système d'exploitation propriétaire. Il faut voir aussi que pour eux, c'était très compliqué parce que les gendarmes, ils ont autre chose à faire que de comptabiliser est-ce que oui ou non, ma licence de Windows, elle est à jour. Est-ce que je l'ai payé, est-ce que j'ai bien payé ma licence pour tel ou tel logiciel. Est-ce que quand je rachète un ordinateur... Donc il y a évidemment le problème de coût, mais il y avait aussi un problème de gestion pour eux, de parc informatique qui reste très vaste. Et donc on a appris il y a maintenant 2 mois, 3 mois, que la migration vers un système d'exploitation libre était programmé pour les mois et les années qui viennent.
Alors moi, je vais peut-être me faire lyncher. Tant pis, je vais lancer.
On n'est pas sûr que la question allait être...
Je vais me positionner un peu du côté des éditeurs de logiciels propriétaires, en fait. Et en fait, dans votre discours, il y a 2 choses qui me gênent. La première, c'est que vous faites, me semble-t-il, un amalgame entre les éditeurs de logiciels quasi monopolistique, et notamment vous parlez beaucoup de systèmes d'exploitation, et les petits éditeurs de logiciels qui développent des logiciels un peu spécifiques, qui me semble-t-il, ont tout à fait le droit de valoriser les années de R&D sur un plan économique, il me semble. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'ennuie, c'est que... Ces petits éditeurs de logiciels, quand ils investissent des années de R&D, c'est quand même pour en vivre. Et quelque part, il me semble que les logiciels libres qui existent aujourd'hui sur le marché reproduisent beaucoup des innovations qui ont été faites par ces petits éditeurs de logiciels et qu'ils essayent aujourd'hui de valoriser. Donc quelque part, le logiciel libre met en péril en fait l'existence de ces entreprises. Donc voilà les 2 points que j'aimerais que vous abordiez en fait.
Oui, ça c'est pour toi. Ça,
sur le premier point, clairement il y a une différence évidemment entre un acteur comme Microsoft et des éditeurs de logiciels propriétaires sur des marchés de niche, effectivement par son abus de position dominante. Ça c'est évident, c'est clair. Bon, cependant, pour moi. Précisons, les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent comme modèle économique, je ne critique pas. Ce que je critique dans Microsoft, c'est l'abus de position dominante et le fait qu'aucune structure gouvernementale n'y mette un terme. Le fait qu'ils fassent du propriétaire, à la limite, du moment que les gens aient le choix, moi ça ne me pose aucun souci. Voilà. Concernant les logiciels, les éditeurs de logiciels propriétaires, on va dire plus petits, de plus petite taille, moi je considère qu'effectivement, c'est quand même un problème pour le client parce que la dépendance du système d'information dépend de la survie économique de cet éditeur. J'ai le droit de penser ça. L'éditeur a le droit, effectivement, d'aller sur un modèle économique et des entreprises de faire ce choix-là. Mais moi, je pense que, en termes d'indépendance, compter sur la survie économique d'un éditeur pour son système d'information, c'est une erreur. Bon. Sur le deuxième point, sur la copie, alors ça, c'est un truc qui sort depuis des années. Juste un rappel, c'est... Tout le monde se copie dans le monde informatique sur les idées. Et c'est normal, parce que je vais quand même... Vous le savez très bien, que ce qui est protégé dans l'informatique, ce sont l'expression des idées via le droit d'auteur, mais les idées en tant que telles ne sont pas protégées. Ce qui permet évidemment à des gens, par exemple, de faire des traitements de texte qui, grosso modo, ont les mêmes fonctionnalités. Parce qu'évidemment, si on veut écrire un traitement de texte, par exemple, qu'on ne met pas un correcteur orthographique, on se dit que ce n'est plus vraiment un traitement de texte. Par contre, ce qui est protégé, c'est la façon de le faire. Le fait, par exemple, qu'à un moment, Apple, par exemple, ait mis une poubelle pour symboliser la corbeille, bah, Microsoft a voulu la reprendre, cette idée. À un moment, bah, Apple, à l'époque, a fait un procès. Bah, ils ont perdu. Heureusement encore. Ce qui était important, ce n'est pas tellement l'idée de la corbeille, c'est comment on l'implémente derrière. Donc cette copie d'innovation, je dirais, c'est normal. Mais les propriétaires récupèrent aussi des gens sur du logiciel libre. Le nombre d'outils propriétaires qui sont basés sur des outils logiciels libres, à la base, c'est monstrueux. Moi, je pense simplement qu'à terme, économiquement, il y a un intérêt pour de très nombreux éditeurs de logiciels propriétaires à aller vers un modèle de logiciel libre et qu'ils continueront à gagner leur vie avec ça. Sachant qu'aujourd'hui et de plus en plus, les cycles d'innovation sont en fait de plus en plus courts. De plus en plus courts. Ce qui est important, c'est d'avoir 6 mois d'avance sur la concurrence. Et dans le monde du logiciel libre, peut-être pas rentrer dans les détails sur les licences parce qu'on perdra beaucoup de gens, mais il y a des licences qui permettent de logiciel libre, notamment la licence GPL, la principale licence, qui permettent justement de garder ces fameux 6 mois d'avance par rapport à d'autres licences. Et il y a aujourd'hui de nombreuses personnes qui, avant, faisaient des modèles éditeurs classiques et qui vont vers un modèle soit full logiciel libre, soit sur un modèle mixte. Il y a une évolution. Mais clairement, je fais une différence, ça c'est vrai, entre les éditeurs, petits éditeurs classiques et Microsoft. Moi, ma position, c'est que je ne suis pas contre Microsoft en tant que tel. Leur modèle est propriétaire ne me dérange pas. À partir du moment où les gens ont le choix et à partir du moment où ça n'a pas un impact sur ma liberté de programmer ou sa liberté de programmer pour les gens du logiciel libre. Or, aujourd'hui, je constate simplement que, à cause de la position dominante de Microsoft, de son abus sur le poste de travail et que le fait que les structures gouvernementales ne mettent pas un terme à la vente liée, il y a clairement une rupture de concurrence pour le consommateur qui n'a pas le choix et donc pour les éditeurs de logiciels libres pour arriver sur ce marché-là. Et je constate depuis des années un intense lobbying de Microsoft dans un certain nombre de structures pour pousser des lois qui vont mettre en danger le logiciel libre. Ça, par contre, là, ça me pose un souci. Là, vraiment. Quand Microsoft pousse, par exemple, sur les brevets logiciels, c'est-à-dire l'idée de se dire qu'on ne protège plus l'expression des idées, mais qu'on protège les idées en tant que telles, moi, je dis, ça me pose un souci en tant que logiciel libre. Et ça pose un souci, d'ailleurs, pas simplement au PME, PMI du logiciel propriétaire. Le combat contre les brevets logiciels, c'est-à-dire cette idée dont on étend la protection ou la restriction aux idées, a été combattu par les gens du logiciel libre d'abord. Mais on a gagné quand les éditeurs de logiciels propriétaires comme les vôtres, comme vous, c'est-à-dire de taille beaucoup moins importante que Microsoft, type PME, PMI, se sont rendus compte que, en fait, les brevets, c'est des champs de mine en faveur des gros. Donc voilà, moi, ce qui me pose problème, c'est ces abus-là. L'existence du logiciel propriétaire, pour moi, est un épiphénomène dans l'informatique, qui aura duré quelques années, par rapport, finalement, à ce qu'est le logiciel libre, qui est tout simplement la diffusion de la connaissance, le partage, la coopération.
Alors, une dernière chose avant de passer le micro. Globalement, je ne suis pas du tout contre le logiciel libre, bien au contraire. D'ailleurs, il y a des choses qui me gênent énormément dans le logiciel propriétaire, et j'en ai une en tête qui m'agace prodigieusement. C'est la non-obligation de résultats de la part de, notamment, vous le citiez, Microsoft, par exemple. Quand vous lisez les conditions d'utilisation, vous voyez que vous n'avez aucun recours en cas de bug. Aucun, en tant qu'utilisateur. Donc ça, c'est vraiment un scandale. Et ça je rejoins tout à fait votre position sur ce sujet. C'est-à-dire qu'on est obligé de vivre avec, quoi. Voilà.
Ouais, vous êtes obligé de vivre avec, ça, c'est vous qui le dites. Parce que dans le cas du logiciel libre, vous n'avez pas plus d'engagement des éditeurs de logiciels libres par rapport à leurs outils. Sauf que, comme le code source est disponible, vous pouvez vous adresser à la société du coin, etc. Effectivement, moi, mon problème, quand les gens font le choix du logiciel propriétaire, que ce soit Microsoft ou des petits éditeurs, c'est qu'ils se mettent pieds et poings liés avec l'éditeur. Et d'ailleurs, il y a un truc assez marrant, c'est que on parlait d'Access tout à l'heure. Access. Il y a une tradition avec Access depuis des années. c'est que de très nombreux développements spécifiques dans des PME, PMI de logiciels métiers ont été faits à partir d'Access. Parce que, techniquement, il faut reconnaître que c'est relativement simple de faire des outils avec Access, même s'ils ne fonctionnent pas forcément très bien et que ça ne fait pas forcément des outils dans la bonne chaire de qualité. Mais globalement, il y a eu beaucoup d'outils spécifiques pour PME, PMI, développés par des sociétés de services avec Access. Et qu'est-ce qui se passait généralement ? Dans la grande majorité des cas, la SS2I, donc la société de service, fournissait au client un runtime access, c'est-à-dire uniquement la partie exécutable du produit, généralement protégée par un login mot de passe, de manière à ce qu'en fait, le client est une version exécutable qu'il ne puisse pas faire évoluer. Donc le client était là,
propriétaire.
Non, c'est pas ça. Il n'était pas contraint par un éditeur propriétaire, mais par une société de service qui lui avait fourni un outil sur lequel le client n'avait finalement aucun droit d'évolution. Est-ce qu'il... Non, attendez. Non, oui, mais oui, justement. Je ne dis pas que c'est illégal. Je dis simplement que c'est bête. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de PME, PMI utilisatrices qui, quand ils passent un contrat avec une SS2I, dans le contrat, ils leur disent « Moi, je veux que vous me filiez tout. » De manière à être indépendant par rapport à la société de service. Et si demain, la société de service, bah, il se fâche, bah, le client peut dire « Moi, j'ai tout. J'ai le runtime machin, mais j'ai aussi le code source et je peux partir sur un autre prestataire. » Et ça... C'est pas du logiciel libre, c'est du logiciel à façon unique, mais on est dans la philosophie de on est indépendant par rapport à son prestataire, par rapport à son fournisseur.
Oui, moi j'ai une petite question qui me gêne dans ce que vous dites. Moi je suis un utilisateur, j'utilise quasiment que des logiciels libres, hein, OpenOffice, Thunderbird. Firefox, Spip, Gimp, enfin, etc. Et malheureusement, parce que j'utilise des ordinateurs que j'achète dans le commerce, j'en avais un sous XP. Le disque dur a flanché, il était naze. J'ai racheté quelque chose, j'ai été obligé de le prendre, il était en Vista. Bon, ça ne me pose aucun problème. Mais à vous entendre, j'ai l'impression, tout en utilisant que des logiciels libres, j'ai l'impression d'être un nain en utilisation de logiciels libres parce que je suis sous Windows.
C'est pas ce qu'on a dit. Hein.
Ah non. Là, je prends ma baguette de pèlerin. Nous, en tant que Framasoft, on essaye justement d'expliquer aux gens que la liberté, c'est à vous de voir jusqu'où vous voulez la placer. C'est-à-dire que... Pour nous, pour être totalement libre, effectivement, il faut utiliser les logiciels libres et le système libre. Mais rien ne vous empêche d'utiliser uniquement des logiciels libres sous Windows. Vous pouvez utiliser des logiciels libres sur système Apple. Non, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas une quantité à partir de laquelle vous seriez nain ou respectable ou irrespectable parce que vous n'utilisez pas un système d'exploitation libre. Ce n'est pas un but en soi. C'est aussi...
Ce que je voulais dire, c'est que dans votre discours... Hmm.
Des applications.
Moi, quand je parle de logiciel libre, je parle globalement. Je fais pas. Mais si que vous ayez du Windows, du libre, si c'est votre choix conscient, moi, ça me pose aucun souci. Au contraire, ce que je dis simplement, c'est que beaucoup d'utilisateurs n'ont pas ce choix conscient parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir ce choix. Mais si vous choisissez, moi, je connais des gens qui utilisent effectivement des bouts de logiciels propriétaires parce qu'ils correspondent mieux à leurs besoins, même sur un environnement quasiment totalement libre. Moi, ça me pose pas de souci. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Ce que je veux simplement juste, c'est qu'ils aient la possibilité de choisir. Or, aujourd'hui, je constate juste que globalement, ils n'ont pas la possibilité de choisir dans le grand public, et que s'ils avaient la possibilité de choisir, après, à la limite, le marché, il fait son travail. Et si le libre est mieux techniquement, il sera choisi. Moi, je n'ai pas choisi le libre parce qu'il est mieux techniquement. J'ai choisi pour d'autres raisons. Mais je suis parfaitement d'accord que des gens veulent choisir un outil informatique par rapport à ses qualités fonctionnelles. Moi, ce que je pense, c'est que le logiciel libre, globalement, sera meilleur, mais... Voilà. Aujourd'hui, il ne peut pas, sur le marché grand public, se développer de façon totalement cohérente parce que, comme vous l'avez dit, vous allez jeter un ordinateur, vous avez Windows XP qui est installé. Qu'est-ce que vous faites derrière? Vous êtes obligé de le garder. Vous n'avez pas l'idée qu'il existe autre chose, que vous pourriez éventuellement, si ça vous intéresse, économiser 200 euros. Aujourd'hui, on nous bassine avec le pouvoir d'achat, et avec raison. Je veux dire, le gouvernement nous dit ouais, le pouvoir d'achat, on le trouve pas. Mais putain, mais c'est ça. Oh, excusez-moi, c'est enregistré. Mais il y a moyen d'arrêter ce pouvoir d'achat. C'est vous mettez un terme, je parle du gouvernement, vous mettez un terme définitif à la vente liée, c'est-à-dire avec l'affichage des prix, là, les gens verront ce qu'ils payeront et commenceront à réfléchir. Et il y aura des offres qui permettront effectivement de faire baisser les prix. Et ne serait-ce qu'économiser 50 euros pour quelqu'un aujourd'hui, c'est très important.
Non, mais la question, c'était plutôt, si vous voulez, je vous ai entendu tout de suite dire, pour avoir un ensemble cohérent, rien d'incohérent à utiliser Windows plus toute une batterie de logiciels libres.
Parce que la liberté dépend du plus petit chaînon. S'il reste un petit chaînon sur lequel il manque de la liberté, pour moi, la liberté n'est pas complète. Mais c'est mon point de vue. Je ne tiens pas à vous l'imposer. Mais
donc
je considère...
ça n'est pas technique. Ça. C'est
ah mais moi, je ne fais pas de logiciel pour des raisons techniques.
C'est uniquement idéologique.
Non, pas idéologique. Philosophique.
Philosophique.
Social, éthique.
Ou philosophique, ouais.
Non, parce que idéologique, tout d'un coup, il y a un mot. C'est bon. Pas parce que j'ai les cheveux longs ou autre. Hein, c'est... Non, pour moi, c'est... Mais clairement, ma position n'a jamais été de faire du logiciel libre pour des raisons techniques. Je ferai toujours le choix du logiciel libre, même si techniquement, à un instant T, c'est plus contraignant, parce que pour moi, effectivement, le logiciel libre, comme pour Stallman, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais je respecte le fait qu'il y ait des gens qui fassent du logiciel libre pour d'autres raisons, purement économiques. À l'April, il y a 2000 membres. Aujourd'hui, il y a des gens comme... c'est enregistré, alors il faut faire attention à qui je cite. Il y a des entreprises, on va dire. Les entreprises, il y en a 80, c'est... OK, elles ne sont pas là pour des raisons éthiques. Et c'est normal, une entreprise, elle est là pour faire gagner de l'argent, pour faire vivre ses salariés. Elle fait le choix du logiciel libre pour des raisons techniques ou économiques. Moi, ça me convient très bien. Dans l'association, vous avez la Ligue de l'enseignement, ben, ce n'est pas pour les mêmes raisons qu'ils sont membres. Vous avez l'ALDIL, le groupe d'utilisateurs de Lyon, des acteurs des logiciels libres qui sont membres. On se retrouve autour de quoi ? De quatre libertés fondamentales. Mais derrière, effectivement, il y a des motivations différentes. Moi, ma motivation, elle est plus éthique et sociale. Mais je comprends très bien qu'il y ait des gens pour qui la motivation soit purement économique, purement technique ou autre.
Oui, j'ai une question de non-spécialiste. Je ne suis pas du tout informaticien. Sur le principe, je suis d'accord que la liberté par rapport au concepteur est primordiale. Mais j'ai une petite inquiétude. C'est est-ce que ça, donc si on libéralise le système de la vente de logiciels, est-ce que logiquement ça devrait accélérer le développement, la rapidité des transformations des logiciels? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une sorte de cacophonie ? Je veux dire par là que votre principe de logiciel libre est intéressant si on aboutit à remplacer Windows, qui est imposé, par un système qui est aussi universel, mais qui sera libre. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir une émergence un petit peu anarchique de concurrence entre des tas de systèmes et des gens qui seront perdus là au milieu ?
Non, mais oui. Non, c'est en fait l'important, comme le disait Frédéric, c'est la liberté. S'il y a plusieurs systèmes, le tout c'est que les utilisateurs puissent faire le choix parmi les différents systèmes. Je ne parle pas du système forcément d'exploitation, les différentes applications, mais au bout d'un moment, cette liberté qui est donnée de toute façon de pouvoir se séparer parce que un logiciel ne correspond pas forcément à nos besoins, donc je vais reprendre un logiciel libre, je vais faire un autre logiciel libre à côté qui, cette fois-ci, correspond à mes besoins. Ça arrive tous les jours, mais ça ne pose pas forcément de problème à l'utilisateur final. Il existe aujourd'hui des dizaines, alors je pense pas loin, peut-être même d'une centaine de logiciels de navigateurs web libres, parce que tout un chacun peut en faire. Pourtant, si je demande dans la salle combien de navigateurs libres sont utilisés, je pense que si on arrive à 2 ou 3, 4, parce que Frédéric est là, forcément, on n'ira pas beaucoup plus loin. Donc, pour l'utilisateur, il n'y a pas forcément il y a un problème d'accès à l'information. Ça, on ne va pas dire le contraire. Ou comment est-ce qu'on va trouver le logiciel libre qui correspond à... Comment est-ce que je vais trouver le logiciel libre qui correspond à mon besoin ? Mais
ceci dit, en une minute, par rapport à ça, c'est vrai que le point de défaut du logiciel libre, c'est effectivement sa richesse. Il faut faire une sélection, etc. Mais globalement, il y a des gens qui font sa sélection pour vous. Ne serait-ce que, par exemple, socialement. Vous avez des copains qui utilisent du logiciel libre, il va vous dire « Moi, par exemple, j'utilise Firefox pour mon navigateur, j'en suis très content pour telle et telle raison, vous allez le choisir pour ça. Si vous me parlez à moi, je vous dirai autre chose, un autre navigateur, etc. » Donc ça se crée. Mais l'autre point positif, c'est que vous pouvez avoir des outils logiciels libres ou des distributions de logiciels libres qui sont parfaitement adaptés à un besoin particulier. Par exemple, éducatif. Par exemple, espace public numérique. Par exemple, entreprise. Par exemple, PME, PMI. Et cette possibilité-là, effectivement, part de cette richesse. Alors, c'est vrai que si vous allez sur Internet, vous allez sur Framasoft, le site de mon ami, là, effectivement, vous avez des tas de logiciels libres dans différents domaines. Mais avec un peu de recherche, vous vous rendez compte lesquels sont les plus utilisés. Et puis, surtout, vous allez faire le choix par rapport à vos propres besoins. Moi, clairement, je n'utilise pas le même navigateur que Pierre-Yves. ou que je n'utilise pas le même outil de courrier électronique que Pierre-Yves, parce qu'on n'a pas la même habitude. Et c'est cette richesse qui me permet effectivement, moi, d'avoir un outil qui va correspondre à mes besoins, Pierre-Yves un autre. Et puis, globalement, il y a des outils qui émergent, parce qu'ils correspondent à 80-90% des usages classiques attendus par les informaticiens, enfin par le grand public, et pareil pour les distributions logicielles libres. Moi, par exemple, je ne vais pas vous dire d'installer sur votre machine la distribution que j'utilise. Non. Elle me convient à moi, mais je sais qu'en tant que grand public, elle ne vous conviendra pas. Moi, je vous dirais plutôt, bah oui, Amandriva, c'est une société française, ça marche très bien. Ubuntu, c'est une simplicité à installer, etc. Voilà, on va restreindre. Partons, je pars de 200 distributions différentes, j'arrive à, en gros, deux choix. Comme ça, je vous laisse un choix. Je ne vous en donne pas une, je vous en donne deux. Mais voilà. Mais par contre, si par exemple, quelqu'un me dit, moi, mon domaine, c'est, moi, je ne sais pas, c'est les jeux, par exemple. Moi, j'ai deux enfants, par exemple. Je leur ai pas installé ma distribution non plus. Je leur ai installé un truc tout simple sur lequel je savais qu'il y avait des jeux pour enfants de 2 et 4 ans. Ben, ils sont très contents. Ils appuient sur le bouton, ça démarre. Il y a le jeu qu'ils utilisent qui démarre tout seul. Puis voilà, ils en sont tout à fait contents. Et j'ai trouvé l'outil qui me correspondait. Et c'est ça qui est bien dans le logiciel libre. C'est qu'à partir d'outils, on arrive à créer... À partir de méta-outils, quelque part, on arrive à créer des outils spécifiques. Quelqu'un a un besoin, il prend ce qu'il y a dans le pot commun... Il met ensemble, il rajoute, et puis voilà, il l'annonce. Et puis alors des fois, c'est utilisé par 10 personnes, et puis des fois, c'est un succès monstrueux, c'est utilisé par des centaines et des centaines de milliers de personnes. Mais je préfère cette richesse-là au désert de Microsoft, où le choix n'existe pas. Mais il n'y a pas de guerre. S'il y a une guerre, mais c'est Microsoft qui nous fait la guerre depuis des années. Nous, tranquillement, on est des... Mais c'est ça le problème. Vous savez, moi, je veux dire un truc. Moi, ça fait près de 20 ans que je fais du logiciel libre. J'ai vu monter en puissance, effectivement, le logiciel libre, sur le grand public, etc. Et j'ai vu aussi monter en puissance les dangers sur le logiciel libre. Moi, quand j'ai créé l'association il y a 10 ans, dans ma tête, la seule activité que je voyais pour cette association, c'est promouvoir le logiciel libre. En gros, faire connaître le logiciel libre, parce que je pensais un peu bêtement... Je suis quelqu'un d'un peu bête, je pense, parce que je pensais bêtement que simplement en faisant connaître, voilà, ça se diffuserait, etc. Et puis de toute façon, on veut de mal à personne. Et puis voilà, ça se diffuserait, les gens connaîtraient, choisiraient, etc. Et puis tout d'un coup, au bout de quelques années, on a vu des gens arriver avec des projets de loi. On a vu Microsoft arriver en essayant de montrer que le logiciel libre, ça respecte pas le droit d'auteur, que ça fonctionne pas, que c'est plein de trucs. Non, mais je suis pas agressé, je vous explique juste l'évolution. Je vous explique juste l'évolution. Et on a vu, effectivement, qu'en face, il y avait un camp... de personnes, de structures qui avaient un intérêt convergent pour combattre le logiciel libre. Alors que les gens du logiciel libre, ils ne demandent pas grand-chose. Ils demandent à pouvoir écrire du code en toute sécurité juridique et économique et avoir accès aux mêmes chances que les autres. C'est-à-dire que dans le grand public, les gens qui veulent acheter un ordinateur avec du logiciel libre puissent le faire aussi bien qu'être chez le propriétaire. C'est tout ce qu'on demande. On est convaincu, en tout cas pour la plupart, que notre modèle, soit il est meilleur, soit en tout cas, on considère que pour nous, c'est le meilleur modèle. On se demande juste que le système... autour de nous, bah, ils soient neutres. On ne demande même pas des projets de loi en notre faveur. On ne demande même pas des choses qui vont nous mettre en avant. On demande juste de la neutralité, de l'équilibre. Et clairement, il y a un acteur qui nous fait la guerre. Bah, je suis désolé. Moi, quand on me fout une baffe dans la tronche, je me relève et voilà, et on se bat. Et le truc, c'est que ce qui est triste, c'est que c'est, et je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un modèle perdu d'avance. Mais c'est simplement le temps que ces structures-là évoluent vers autre chose. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils y sauront évoluer. Aucun doute. Ça prend juste du temps parce que, évidemment, on parlait tout à l'heure des habitudes des utilisateurs. Bouger les habitudes des utilisateurs, c'est compliqué. Imaginez bouger quelqu'un qui a un modèle dans lequel que des gens puissent travailler gratuitement est inconcevable. Je vous rappelle, enfin, si vous ne savez pas, je vous encourage à chercher sur un moteur de recherche la lettre aux hobbyistes de Bill Gates qu'il avait écrit quand il s'est rendu compte que des gens lui copiaient son basique qu'il avait écrit. Cette lettre est un monument. Cette personne, en tout cas à l'époque, ne pouvait pas comprendre que des gens voulaient partager, que des gens puissent contribuer simplement sur leur temps libre. Mais c'est une structure qui évolue parce que ces gens-là sont capables d'évoluer. On l'a vu dans d'autres domaines. On l'a vu sur Internet, par exemple, où disait Internet ne marchera jamais, c'est MSN qui va marcher. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu. Et ils ont réécrit l'histoire en disant, bah oui, on a toujours dit qu'Internet, c'était très bien. Donc, ils évolueront. Mais simplement, pour l'instant là, ils nous mettent dans des situations délicates. Ça, c'est clair.
Ici, pour ma question. Ma question est courte. Je voudrais savoir s'il est vrai... que la majorité des développeurs de logiciels libres sont des bénévoles.
Majorité. Il faudrait déjà qu'on réussisse à se compter. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément de... Pour moi, oui, tout simplement parce que n'importe qui peut développer du logiciel libre. Dans mon cas, je ne suis pas du tout informaticien à la base. Je suis devenu parce qu'il y avait des logiciels libres. Sans ça, j'aurais fait autre chose. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui commencent à faire du logiciel libre parce que ça leur est accessible. Après, qu'on soit comptabilisé ou non comme développeur, c'est autre chose. C'est sûr que si vous vous demandez combien de développeurs à temps plein font du logiciel libre, la réponse n'est pas la même. Mais honnêtement, oui, je pense qu'il y a plus de bénévoles dans le logiciel libre qu'il y a de gens aujourd'hui payés pour développer du code libre. Mais il faut bien comprendre qu'il y a énormément d'entreprises qui développent du code sur le code d'outils libres. Et par conséquent, selon les libertés qu'énonçait Fred tout à l'heure, il y a un certain nombre... Enfin, le code, du coup, demeure libre. Et donc, ces gens produisent du code libre, entre guillemets, par défaut, ou en tout cas, non pas du tout contraint et forcé, mais parce qu'ils veulent justement réutiliser les briques existantes. On leur dit, si vous voulez réutiliser ces briques, parce que vous allez construire sur ces briques... Autant que ça soit libre aussi, pour que d'autres puissent construire. Et c'est ça, finalement, qui paraît important dans la philosophie du logiciel libre, c'est de ne pas rejeter le partage et la collaboration, et que de partir du principe que le savoir, il n'est pas spontané. On a toujours construit sur ce que les autres ont fait avant nous, et quand on va produire du code libre, on va réutiliser du code qui est déjà préexistant par ailleurs. Et donc, il y a énormément de bénévoles qui vont, effectivement, participer à du logiciel libre, leur contribution pourra être mineure, mais quand on est des milliers ou des millions, enfin des millions, j'exagère peut-être, mais en tout cas, il y a plusieurs, quand même, centaines de milliers de logiciels libres, donc vous imaginez le nombre de développeurs qu'il peut y avoir derrière, et de partir du principe que quand on crée quelque chose, justement, on va peut-être vouloir juste ajouter une petite pierre, mais que petite pierre par petite pierre, finalement, on arrive vraiment à faire des grands ensembles, j'allais dire des pyramides, mais ça donne une image un peu lourde, je trouve.
Oui, puis surtout, c'est pas le même modèle de développement. Mais, ouais. Mais ceci, sur les bénévoles, juste un point. Souvent, les gens, je pense pas que c'est votre cas dans votre question, mais les gens associent souvent bénévoles à personnes exploitées indirectement par les entreprises, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour moi, et je pense que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui font du logiciel libre, c'est quelque chose qui est naturel. Simplement, ils en ont envie. Exactement de la même façon qu'il y a des gens qui écrivent des romans dans leur chambre, etc., et qu'à un moment, qu'ils publient, etc. Sauf que dans le cas du logiciel libre, du logiciel, comme c'est un objet fonctionnel, il se trouve que d'autres personnes ont un intérêt à contribuer. Et c'est vrai que c'est beaucoup de bénévoles, mais c'est des bénévoles qui ne sont pas forcés. Personne ne les force à le faire. Simplement, ils en ont envie, ils en ont besoin, ils contribuent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de très nombreux logiciels libres sont faits effectivement par des bénévoles. Alors à côté de ça, il y a des entreprises effectivement qui peuvent contribuer. Mais ceci dit, il y a de plus en plus de gens qui sont payés pour faire du logiciel libre. Et dans les années à venir, il y en aura de plus en plus. Tout simplement pourquoi ? Parce que imaginez le nombre... Vous savez que le plus grand nombre de développeurs, ils ne se trouvent pas à la limite dans le monde du logiciel libre ou dans le monde du logiciel propriétaire. Ils se trouvent dans les grands comptes, dans les PME, PMI, dans les services informatiques. Des gens qui sont payés à faire quoi ? À faire un système d'information qui fonctionne, qui répond à des besoins fonctionnels. Et ces gens-là, de plus en plus, ils utilisent pour leurs propres besoins du logiciel libre, parce qu'ils y trouvent leur intérêt économique ou technique. Et ces gens-là, à un moment, ils deviennent aussi contributeurs de logiciels libres, parce qu'ils ont un logiciel qu'ils ont récupéré, ils ont corrigé un bug, rajouté une fonctionnalité, ou écrit même une documentation. Ils vont se dire, naturellement, c'est du logiciel libre, je vais recontribuer de la même façon en publiant. Et ces gens-là, dont l'activité aujourd'hui est d'être informaticien payé, de plus en plus... ils seront payés, et pour beaucoup, ils produiront du logiciel libre. Leur contribution, ça sera peut-être que quelques lignes ou de la documentation, mais c'est comme ça que la contribution se fait. C'est vraiment petit par petit, et puis c'est vrai qu'il y a quelques autres personnes qui, eux, contribuent beaucoup. Mais peu importe, ce qui est important, c'est de savoir comment on peut contribuer dans son coin, chacun à son niveau. Et ce qui est important de comprendre, c'est que les gens, de toute façon, comme exactement de la même façon que les artistes, par exemple, il y a des tas de gens qui font de la musique sans avoir aucun espoir, un jour, de faire de l'argent avec. Aucun espoir. Ils le savent. Ils font autre chose dans la journée, mais ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, c'est exercer leur créativité. Ils mettent ça sur Internet, etc. Ils savent qu'ils ne gagneront pas de l'argent. Ils espèrent peut-être un peu, mais ils n'y croient pas trop. Mais pourtant, ils continuent. Pourquoi ? Parce que c'est de la créativité. Et le logiciel libre permet aux informaticiens d'exprimer leur créativité, et ce qui est important, en étant sûr que leur nom soit toujours associé à ce qu'ils produisent. Vous êtes... Je pense qu'on est tous incapables de citer des noms de développeurs de logiciels propriétaires, globalement. À part les petites PME, PMI, on pourrait... Bon. Mais ceux qui produisent, par exemple, du Windows, ceux qui produisent Oracle, les noms. Dans le logiciel libre, noms des gens, on les connaît. Quand vous récupérez un code logiciel libre, le code source, vous avez généralement un fichier qui dit, voilà, un tel a contribué. Et ça, c'est important, c'est que le logiciel libre permet aux gens de dire, oui, j'ai contribué, et puis ma contribution, elle est reconnue, ne serait-ce que par mon nom. Et ça, ça suffit très largement. Par rapport au logiciel propriétaire, où vous contribuez, personne ne sait que vous avez contribué, vous n'existez pas en tant qu'auteur. Alors qu'avec le logiciel libre, vous existez en tant qu'auteur. Et fondamentalement, c'est très important. Et pour moi, c'est le même niveau que la production artistique. Pour moi, c'est d'ailleurs pas pour rien que l'un des plus beaux bouquins sur la programmation s'appelle The Art of Programming, l'art de la programmation. Pour moi, c'est du même niveau que l'artistique, la programmation. Même si je ne suis pas un développeur professionnel et tout, pour moi, c'est la même chose.
Merci. Il y en avait une là-bas.
Ça marche. J'ai deux réactions. La première, c'est lié peut-être aux usages, je dirais, personnels de ces outils logiciels libres, avec deux exemples. Le premier, c'est, ça fait 2 ans que je déclare mes impôts sur Internet, 2 ans que je ne peux pas déclarer mes impôts sur Internet en utilisant Firefox. Bon, on fait quoi ?
Si. Maintenant, c'est possible.
Alors, peut-être, ouais. Mais bon, je ne sais pas. En tout cas, ça fait 2 ans que j'ai des problèmes avec ça, donc je suis obligée d'ouvrir Internet Explorer pour le faire. Donc c'est un type de problème que je pense pas mal de personnes peuvent rencontrer. J'ai pourtant l'habitude de mettre mes logiciels à jour, etc. Enfin bon, ça se met à jour plutôt tout seul, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Deuxième cas, je suis dans un établissement scolaire, enfin c'est pas moi, mais je prends l'exemple d'une amie qui a mis en place un système de gestion des notes de manière électronique et qui ne peut pas faire la saisie des notes via autre chose que Internet Explorer, même chose. Même le Mac ne fonctionne pas, ils ont des Macs à la maison, ils ne peuvent pas faire cette saisie via autre chose qu'un Internet Explorer. Donc la question derrière, c'est on est toujours confronté à ce genre de situation, qu'elle soit solvable ou pas dans l'immédiat. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on doit avoir plusieurs ordinateurs dans la maison ? Comme vous disiez tout à l'heure, bon, à vos enfants, vous avez installé un autre système, etc. Donc, un système pour les enfants, un système pour les adultes qui n'ont pas des besoins, je dirais, peut-être professionnels, ou je ne sais pas. Un autre système, quand même, à côté, avec Internet Explorer et Windows au cas où, parce qu'on a toujours besoin d'assister, de se connecter à quelque chose, et peut-être qu'on peut pas tout faire non plus. Donc la question, c'est, est-ce que il faut commencer, enfin comment est-ce qu'on arrive à avoir toute la chaîne des fonctionnalités? Est-ce qu'il s'agit d'avoir un modèle économique où on va permettre aux gens, leur donner le choix en leur disant, vous pouvez effectivement acheter votre ordinateur en utilisant Windows ou en utilisant un système libre, et puis effectivement on va prendre le système libre peut-être, et puis arriver chez soi et se rendre compte que des opérations simples de la vie courante, on ne peut pas les faire. Bon, on risque d'être confronté à ça. Le deuxième point, très rapidement, c'est on évolue quand même vers l'informatique nomade aujourd'hui. Appelons ça nomade ou autrement, peu importe. On parle beaucoup de postes informatiques depuis qu'on est là, enfin de postes classiques, disques durs, etc. Bon, quid des portables, etc. Tout le monde achète des portables aujourd'hui. Dans combien de temps on va pouvoir aller dans son magasin et dire je veux un portable équipé avec un système d'exploitation bon.
C'est une bonne question. C'est déjà le cas sur. C'est pas dans tous les magasins, malheureusement. C'est ce que disait Frédéric tout à l'heure. Donc je ne vais pas revenir sur la vente liée. Mais ça devient. Aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment un combat essentiel. Ce problème de la vente liée, parce que tous les problèmes que vous citiez avant dépendent de ce problème-là. C'est-à-dire que le logiciel de notes dont vous parliez, s'il fonctionne pas avec un Mac ou avec Firefox, c'est pas la faute de Firefox. Voilà, donc c'est l'éditeur du logiciel qui l'a pas rendu compatible, mais qui l'a pas fait de selon les règles de l'art. Sans ça, il fonctionnerait avec Firefox. Vraiment, donc tu veux.
Ouais. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, effectivement, le problème, il est pas lié au logiciel libre. Aujourd'hui, malheureusement, la chose qu'on peut faire, et c'est ce que nous on fait, c'est d'écrire à l'éditeur du site en question, etc., parce que ça, c'est sur des sites de vente en ligne, etc., en leur disant, en leur expliquant gentiment que parce qu'ils ne respectent pas les standards de l'Internet, on ne peut pas accéder à leur site avec n'importe quel navigateur. Et des fois, on tombe sur des gens qui sont tout à fait honnêtes et qui vous disent, c'est arrivé, je ne sais pas, cette semaine, je ne sais plus quel site, où la personne vous dit, ah oui, bah, on s'est fait fourguer le site par une boîte de com, machin, qui a en plus, de toute façon, disparu, et effectivement, on sait ce problème-là, on est en train d'y travailler. La sensibilisation est essentielle. Alors, on a l'impression que c'est une goutte d'eau à chaque fois d'envoyer un mail, etc. Mais il faut bien savoir que sur la vente liée, ça a commencé comme ça. C'est parce que des gens ont commencé à écrire à la DGCCRF, donc Direction Générale Concurrence... Consommation, concurrence et répression des fraudes. J'oublie toujours un C, moi. Des gens ont commencé à expliquer à la DGCCRF, bah, là, on a des problèmes de vente liée, on peut pas, machin. Plus il y a eu de courriers, plus rien, ils se sont dit, ah bah ouais, il y a quand même beaucoup de courriers, c'est qu'il y a quand même peut-être un petit problème. Donc, effectivement, il faut écrire. On a l'impression que c'est une perte de temps, mais si on le fait, au fur et à mesure, beaucoup de gens le font, ces sites évolueront. Mais c'est vrai qu'il y a un existant aujourd'hui de non-respect des standards de l'Internet qui fait que beaucoup de sites sont effectivement soit exclusivement accessibles via Internet Explorer, soit fonctionnent mieux avec Internet Explorer. On voit même des sites, des fois, enfin, je sais pas si ça existe encore beaucoup, mais à un moment, on voyait des sites optimisés Internet Explorer 640 fois machin. On se dit, c'est hallucinant. Enfin, c'est l'ancêtre de l'Internet. Aujourd'hui, ça évolue. Maintenant, pour moi, la seule chose à faire actuellement, effectivement, c'est d'écrire au site et puis de faire remonter ces informations aux structures qui sont en charge de ces questions-là. En France, c'est notamment la DGCCRF.
Juste pour compléter, par rapport vraiment à l'aspect Internet, aujourd'hui, c'est devenu quand même assez rare. Enfin, moi, j'utilise Firefox de façon extrêmement intensive. C'est devenu vraiment très, très rare que je tombe sur des sites où je me fais jeter. Hein. Pour info, je paye mes impôts en ligne depuis 2 ans avec Firefox. Hein, et j'ai vraiment pas de soucis. Donc, il faut peut-être aller chercher...
Mais t'es obligé de télécharger Java propriétaire.
Oui, voilà. Je suis obligé, effectivement, de télécharger Java. Mais honnêtement, ça marche quand même assez bien. Après, donc, pour le web, vraiment, les choses s'améliorent parce qu'il y a une très, très forte percée de Firefox qui représente jusqu'à plus de 30% d'utilisateurs... 30% des navigateurs dans certains pays, mais il reste encore plutôt pour moi des domaines, des applications où effectivement aujourd'hui les logiciels libres, c'est pas qu'ils sont pas à la hauteur, c'est qu'ils essayent de rentrer sur des marchés qui sont relativement fermés et sur lesquels il faut beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour arriver à des équivalents. Je pense notamment aux jeux, mais à certains types de jeux, parce que les éditeurs visent le marché justement et non pas le besoin de l'utilisateur.
On va prendre encore quelques dernières questions avant de laisser le soin à nos intervenants de conclure.
Donc, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de Windows. Je voudrais revenir un peu sur Apple. On va peut-être pas parler de la vente libre, puisque c'est le même problème que pour Windows, mais plutôt du fait qu'Apple intègre des éléments libres, notamment Safari, qui est basé sur les sources de Conqueror, qui ont été rendues d'ailleurs après développement. Safari a été, le mois dernier, ça a été un des premiers à passer le test... Acid 3, ça a été aussi la source du fait que d'un test là, le week-end dernier, ça a été le premier ordinateur à se faire hacker à cause d'une faille de Safari 3. Et on voit beaucoup aussi sur Leopard, beaucoup d'idées inspirées de Linux, notamment le multi, les bureaux multiples. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce genre d'initiative ? Est-ce que c'est bien que ce soit intégré
Ce serait bien s'ils repartageaient tout le temps, tout de suite, déjà. Après, ça reste un environnement qui reste complètement propriétaire. Je veux dire, en dehors du problème de la vente liée, si moi, demain, je vais améliorer le système macOS 10, je fais comment ? Voilà. Ça reste un système propriétaire, pour moi, point barre. Après, le fait que Safari se soit fait hacker plus vite... parce qu'il y avait une faille de sécurité, ça montre aussi que ça arrive aussi et beaucoup plus au logiciel même propriétaire qu'au logiciel libre. Si tout avait été transparent, peut-être qu'ils n'auraient pas eu ce problème-là. Quant au fait qu'ils passent le test ACID 3, donc ACID 3, c'est un espèce de challenge pour de page web, en fait. Et c'est vrai, pour l'instant, peu de navigateurs qui arrivent à le passer. Enfin, moi, j'ai suivi ces dernières semaines l'évolution pour Firefox. Et Firefox grimpe le pourcentage de réussite à ce test-là, grimpe très, très vite. Voilà. Et je ne me fais pas trop de soucis. Je pense que quand Firefox 3 sortira, il passera probablement le test ACID 3.
Je vais rebondir sur la question de madame, en fait, ouais, qui était intéressante. Je pense que dans un premier temps, en fait, il y aura nécessairement une période de cohabitation entre Windows et Linux. En fait, on a encore certains besoins qui sont que sur Windows. Par exemple, les jeux vidéo, par exemple, on sait très bien que c'est essentiellement sur Windows. Est-ce que vous pourriez aborder un petit peu le thème, en fait, des logiciels de virtualisation qui pourraient permettre justement une transition peut-être un peu plus aisée vers Linux, en fait, en virtualisant, ouais, par exemple Windows sous Linux pour pouvoir passer, ouais, plus facilement vers Linux.
Bah, en fait, le problème, c'est pas de virtualiser. Donc virtualiser, c'est faire tourner un système dans un système. Bon, en tout cas, je simplifie, mais bon. Le problème, c'est comme le disait Frédéric aussi, c'est on met pas beaucoup de temps à changer ses habitudes. L'idée de fonctionner avec deux systèmes sur le même ordinateur, on peut aussi le faire en fonctionnant en faisant ce qu'on appelle un double boot, donc c'est-à-dire avoir un ordinateur qui fonctionne sur lequel on peut démarrer au choix sous Windows et sous Linux ou sous Mac et sous Linux. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très très bien aujourd'hui. Ça pose vraiment quasiment plus de problèmes. Si vous utilisez un système de virtualisation, vous allez perdre en performance, ce qui fait que moi, je ne vais pas forcément le conseiller, parce que je me dis, si vous faites tourner Linux en virtualisé dans Windows, vous allez vous retrouver avec un Linux qui rame un peu. Donc forcément, vous allez vous dire, ça ne marche pas très très bien, etc. Et ça, il peut y avoir d'autres problèmes qui vont se poser. Utilisez vraiment Linux et vous verrez encore une fois que... Moi, je pense vraiment qu'il y a quelques années, effectivement, on pouvait difficilement conseiller d'utiliser Linux à des utilisateurs grand public. Aujourd'hui, il reste une barrière à franchir qui est celle de l'installation, d'où le problème de la ventilée dont on parlait tout à l'heure. Mais une fois installé, un système Linux, franchement, ça s'utilise vraiment très très bien. Alors, oui, il y a toujours le problème des jeux. Ça change doucement. On peut émuler des jeux, donc on peut acheter, par exemple, je pense que je connais des gens qui font tourner World of Warcraft, qui est un jeu bien connu sous Windows, il peut tourner sous Linux. Ça fonctionne. Maintenant, effectivement, il y a un énorme marché, le jeu vidéo représente un marché supérieur à celui du cinéma. Il y a d'énormes enjeux financiers derrière. Plus il y aura d'utilisateurs de Linux, à ce moment-là, ils ne se poseront pas la question, les éditeurs de jeux. Évidemment, pour l'instant, ils ont des accords avec Microsoft, mais le jour où on leur dira qu'il y a 10% d'utilisateurs, 10% de clients dont ils passent à côté, tout simplement parce qu'ils avaient passé des contrats avec Microsoft, les contrats ne tiendront pas longtemps. D'accord. Oui. Aujourd'hui, ça fonctionne assez bien. Je ne parle pas d'applications métiers extrêmement pointues, mais quand vous voulez faire tourner certains logiciels relativement courants qui existent sous Windows et qui n'existent pas sous Linux, vous pouvez, avec Linux, faire tourner des logiciels Windows. Ah ben, évidemment. Il faut payer la licence. Pardon ? Oui, mais il faut quand même payer la licence de logiciel. Si je veux faire tourner, je ne sais pas, on va dire Dreamweaver... sous Linux. Oui, il faut que je paye la licence Dreamweaver, j'achète le logiciel. Non, vous n'êtes pas obligé de payer la licence Windows.
C'est de l'émulation et la virtualisation.
Oui. On installe un système.
On installe un système à l'intérieur de notre système. Donc, comme on installe un système Windows, on doit payer.
Alors, malheureusement, nous ne sommes pas libres, encore complètement libérés des horaires d'ouverture de la bibliothèque. Donc, je remercie nos deux intervenants d'avoir répondu à toutes vos questions et je pense que ça a permis à beaucoup d'entre nous de nous éclairer sur l'utilisation des logiciels libres. Le libre à la bibliothèque municipale de Lyon n'est pas terminé puisqu'on va organiser un open tour avec Pierre-Yves Gosset ici présent, donc du 13 mai au 28 juin. Donc, il va faire une véritable tournée d'artistes puisque le logiciel libre est un art, comme on l'a dit. Voilà. Donc une tournée d'artistes dans les différents espaces du réseau entre le 13 mai et le 28 juin. Voilà, vous pourrez continuer cet échange et pratiquer le logiciel libre. Merci à vous deux. Je vous laisse bien sûr le dernier mot si vous voulez rajouter quelque chose.
Non, mais moi je vais juste terminer. Je laisserai Fred faire une conclusion parce que je suis sûr qu'il fera une conclusion. Non, en disant que c'est vraiment important. Quand on dit logiciel libre, c'est le mot libre, il est vraiment important parce qu'il s'agit vraiment de vos libertés. Dans un monde qui aujourd'hui est vraiment tout numérique, où c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la télévision, le PDA, le téléphone portable, la musique, tout ce côté immatériel, il y a un vrai enjeu, et cette fois-ci citoyen et pas seulement d'utilisateur, à utiliser des technologies dont, même si vous n'allez pas regarder comment ça fonctionne en tant qu'utilisateur, vous faites confiance et vous déléguez cette confiance à d'autres. Et c'est vraiment important pour vous d'utiliser des systèmes sur lesquels vous pouvez déléguer cette confiance et vous donnez pas un blanc-seing à un certain nombre d'entreprises. On a beaucoup tapé sur Microsoft, mais on pourrait dire dans la culture, on pourrait taper sur les majors du cinéma ou de la musique. Les semences, alors les OGM, tout à fait. Il y a comme ça un côté marchandisation de l'ensemble des produits de consommation, et on essaye de nous faire croire que la culture est un produit de consommation, et il y a un vrai enjeu derrière citoyen, républicain, puisqu'on parlait de liberté, d'égalité, fraternité tout à l'heure, à utiliser des systèmes sur lesquels on peut partager et collaborer ensemble. On ne dit pas que ce système-là doit forcément remplacer tout le reste, mais en tout cas il faut que ça soit équilibré, et comme le disait Frédéric, on demande juste le droit d'exister, et aujourd'hui le mouvement du logiciel libre inspire d'autres mouvements dans la photo, la vidéo, le cinéma, etc. Donc, à toi.
Pas vraiment une conclusion. D'abord, remercier Carole de l'invitation ici. D'abord, il faisait un superbe temps par rapport à là où je viens. En plus, j'ai trouvé franchement l'échange très intéressant, notamment les questions. C'était bien qu'on intervienne de façon succincte et qu'il y ait pas mal d'échanges. C'était vraiment très intéressant. Et c'est vrai que pour juste en rajouter sur ce que vient de dire Pierre-Yves, et là je ne vais pas parler de logiciel libre, moi je vous invite vraiment à surveiller l'actualité politique et législative des prochains mois, parce que comme on l'a expliqué aujourd'hui un petit peu sur le logiciel libre et l'utilisation des technologies numériques pour la créativité, il y a aussi l'utilisation des technologies pour restreindre la créativité et restreindre les libertés numériques. Alors c'est tout ce qui est connu sous les vocables DRM notamment, gestion de outils de contrôle d'usage. Et là, dans l'actualité législative, est annoncée la nouvelle projet de loi autour du droit d'auteur, avec de plus en plus de restrictions, de plus en plus de remises en cause des libertés publiques. Et c'est un enjeu vraiment essentiel, qui dépasse très largement le cadre du logiciel libre, qui tout simplement concerne les libertés individuelles, les libertés publiques à l'ère du numérique. Et simplement à prendre conscience, alors on n'en a pas parlé, on voulait en parler un petit peu, mais que les libertés qu'on connaît aujourd'hui, avec le numérique, peuvent être remises en cause. Le simple fait, par exemple, de pouvoir prêter un livre à un ami, de pouvoir lire un livre plusieurs fois, dans le numérique aujourd'hui, avec des outils de contrôle d'usage, ça peut être mis en cause. Donc moi, je vous invite vraiment à surveiller ces sujets-là, qui dépassent largement le cadre du logiciel libre, que vous fassiez du libre ou du propriétaire, parce que ça va arriver bientôt à l'Assemblée nationale, au niveau européen. Et si vous voulez vous renseigner là-dessus, il y a un site où vous cherchez, c'est quadrature.net, où vous cherchez sur un moteur de recherche la quadrature du net. C'est une initiative qui a été lancée la semaine dernière de gens qui visent à informer sur tous ces projets de loi qui arrivent. Et si vous avez des questions autres que vous n'avez pas pu traiter, je vous invite à nous contacter. Alors mon mail, c'est facile, vous allez sur april.org et vous le trouvez très facilement. Ou puis sinon, je peux vous le donner. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions. J'hésiterai pas du tout à y répondre. Puis merci à vous en tout cas.